C'est la deuxième fois, cher Henri Guillemin, que j'ai le plaisir de vous accueillir au Centre d'Action Culturelle. Deux fois, c'est déjà une tradition. Et ma foi, c'est une tradition qui m'est bien agréable et dont je me sens bien honoré. Mais la tradition remonte à pas mal d'années, bien avant d'ailleurs cet équipement, bien avant le 4. Et depuis son ouverture, vous avez parlé de Dreyfus, de l'énigmatique Charles de Gaulle, de Victor Hugo, et l'année dernière, de Staline, et ce soir, de la guerre d'Espagne. C'est un sujet qui nous touche tous, aujourd'hui. Ceux qui en ont été des témoins, comme ceux qui ne l'ont pas vécu. Nous n'avons pas fini de nous en souvenir, et peut-être, avec encore un peu plus d'attention et un peu plus d'angoisse en ce moment, où l'on voit d'étranges retours, où l'on renifle d'étranges odeurs, d'étranges relents, où l'on entend d'étranges discours que l'on croyait dépassés. La bête immonde a toujours son ventre fécond, comme l'a dit Bertolt Brecht. Et lorsqu'on vous demande pourquoi la guerre d'Espagne, vous nous avez répondu, vous, qui en avez été un témoin actif, parce qu'il y a 40 ans déjà, et qu'il est temps de faire le point, de ce recul nécessaire. Nous vous écoutons, cher Henri Guillemin, et nous vous remercions de nous aider à mieux comprendre notre propre histoire.
Merci beaucoup. Merci. Ben voilà, en effet, il y a 40 ans que ça s'est déroulé, je crois que ce recul est suffisant pour que nous puissions voir les choses à peu près telles qu'elles se sont passées. Je vais être très pédagogue, ça va être très didactique ce soir, pas du tout oratoire. Je voudrais travailler très sérieusement à une intellection, enfin un effort de compréhension. Ben, partons de ceci, qu'en 1922, le fascisme avait réussi en Italie. En 1933, le nazisme réussit en Allemagne. En février 34, le fascisme français tente sa chance. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mot, puisque Bravillac, en 1941, parlera de l'aube du fascisme qui s'était levé le 6 février 34. Vous rappelez peut-être que le 6 février 34, ça a été grave, qu'il y avait une énorme manifestation, place de la Concorde derrière, que la République a failli sombrer, qu'à 18h30, il n'y avait plus qu'un rideau d'agents derrière, en place de Bourgogne, hein. C'était les Croix-de-Feu qui étaient là, l'Action française était de l'autre côté. Et il pouvait avancer, hein. Le colonel Comte de la Roque n'avait qu'à dire foncer, puis ça y est, on entrait dans la salle du Palais Bourbon et on proclamait un gouvernement provisoire. Et bien, ça fait 9h30 qu'il s'est arrêté, comme vous savez, il a donné l'ordre à ses hommes de tourner les talons. Pourquoi? Eh bien, le fasciste français avait raté son coup en 1934 parce que, premièrement, la droite ne s'était pas entendue. Il y avait rivalité entre la Roque d'une part, les Croix-de-Feu, et Maurras avec l'Action française. Monsieur Larocque ne voulait pas que ses hommes travaillent au bénéfice de l'Action française, et l'Action française ne voulait pas travailler au bénéfice des Croix-de-Feu. S'il y avait eu entente préalable pour la constitution de je ne sais quel gouvernement provisoire, peut-être que la République s'était détruite. Deuxièmement, l'armée n'a pas bougé. Malgré quelqu'un, il ne savait peut-être pas qu'il allait Lyoté. Il allait mourir la même année, vieux Lyoté était extrêmement, entre guillemets, fasciste. Et en 1924, au moment du cartel des gauches, Lyoté avait déjà essayé de débaucher un certain nombre d'officiers généraux, en particulier Foch, qui lui avait donné son accord pour faire un putsch. Pétain, à ce moment-là, avait refusé, il avait déclaré qu'il était loyal au gouvernement, c'était, comme vous savez, ergo. Mais en 1934, au moment de cette agitation très importante, l'armée n'a pas bougé. Elle a été entièrement loyaliste. Alors voilà maintenant ce qui va se passer en Espagne. Les conditions sont très différentes des conditions françaises. Chez nous, le problème social, c'est avant tout un problème ouvrier, enfin la sidérurgie des grands. Les grandes affaires comme ça. Mais en Espagne, c'est des affaires agraires. Pourquoi des affaires agraires? Eh bien, j'ai recopié là, parce que je ne peux pas tout apprendre par cœur, des choses comme le duc d'Alp possédait 35 000 hectares. 35 000. Le duc de Peñaranda, 51 000 hectares. Et le duc de Medina Celi, je ne sais pas si je prononce très bien, 79 000 hectares. À la Fondia, hein. Et ces hectares, souvent, n'étaient même pas à faire rester en jachère parce qu'ils le réservaient pour leur chat. Mais dans les parties de ce territoire monstrueux qui appartenait à quelques individus, il y avait des braceros, c'est comme ça que ça se prononce, des ouvriers agricoles, quoi, les journaliers, lesquels étaient 2 à 3 millions de journaliers, qui étaient payés en moyenne 3 pesettes, et il faut savoir que pour avoir un kilo de pain, c'était une pesette. Vous vous rendez compte de l'état de détresse dans lequel étaient ces paysans, qui gagnaient donc quand il travaillait, hein, quand il travaillait, ce n'était pas le meilleur ouvrage. Trois, le fait qu'il fallait manger, même les jours où on n'était pas payé, situation dramatique. Un. Deux, en France, c'était les socialistes et les communistes, c'était très important. Mais voilà qu'en Espagne, il y avait une puissance considérable dans la classe ouvrière et la classe paysanne, surtout ouvrière, de la CNT, c'est-à-dire les anarchistes. Lorsqu'il y a eu la rupture est intervenue entre Marx et Bakounine, Bakounine représentant une tendance anarchiste et Marx la tendance que vous savez, Bakounine n'avait eu d'écho presque nulle part. Sauf, et je ne sais pas pourquoi, sauf en Espagne, il y a un grand écho, puisque la CNT, Confédération Nationale du Travail, l'emportait de beaucoup sur l'UGT, Union Générale du Travail, avec Largo Caballero, que je prononçais autrefois Caballero, vous savez, c'est Largo Caballero, lui c'était un socialiste, mais la CNT était infiniment plus importante, et à l'intérieur de cette CNT, il y avait un mouvement plus ou moins secret, enfin il ne fallait pas dire qu'on y appartenait, c'était la FAI, Fédération Anarchiste Ibérique, et les gens de la FAI, c'était fer de lance, c'est une expression que je remplirai tout à l'heure pour un autre chose. C'était la partie la plus étagiste, des troupes de choc, si vous voulez, quoi, les anarchistes. Alors, premièrement, problème agraire. Deuxièmement, importance considérable, majeure, des anarchistes. Et troisièmement, les tendances centrifuges en Espagne, qui existent toujours aujourd'hui, hein, Pays Basque, vous le savez, nous en connaissons quelques-unes en France, mais ce n'est rien en comparaison de la violence, de l'autonomie, des tendances autonomistes en Pays Basque d'une part et en Catalogne d'autre part. Voilà les trois différences. Alors, comment les choses ont-elles évolué? Et voilà qu'en 1931, pour la première fois, c'est la République. Attention, il faut bien comprendre ce qui se passe là. Alphonse XIII a démissionné, a abdiqué, pas volontairement, parce qu'on lui avait expliqué que la situation intérieure était très dangereuse, que c'est la situation sociale qui voulait éclater, et que si on mettait le mot République, ça calmerait les gens. Vous savez, c'est ce qui est arrivé chez nous le 4 septembre 1970. Lorsque s'est constitué brusquement un gouvernement dit de la défense nationale, qui était en réalité un gouvernement de défense sociale, parce que le socialisme et le communisme, on n'en fait pas encore ce mot-là, mais en fait l'extrême gauche, étaient extrêmement puissants à Paris, et que les gens, les juifs, vous savez, j'ai une femme juive, sinon j'ai une série, j'ai une prochaine, etc., c'est cette bande de juifs, s'est précipité à l'hôtel de Ville pour dire on va créer la République, parce que ce mot de République est un mot apaisant et séducteur. En réalité, pour assurer l'essentiel, et l'essentiel, c'est la fortune assise et les millions de s'enrichir. Hein. Ben c'est le même tour, n'est-ce pas? On avait expliqué à Alphonse XIII, vous savez, il est parti avec beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème. Hein. On lui a dit, pour la continuité sociale, il vaut mieux que la République. Puis vous allez voir, effectivement, ça s'est passé comme ça en France. Lorsqu'on donnait le suffrage, lorsqu'on donnait le suffrage universel à cette population, la première fois, ça avait été en 48, hein, 23 avril 48 en France, la deuxième fois, c'était le 8 février 71, ça avait toujours été des notables, des possédants, des gens installés, que les pauvres gens désignaient pour les représenter. C'était la grande idée de M. Thiers, il disait, vous savez, la République, c'est ça, plus conservateur. Et bien, c'est ce qui va se passer aux élections de 31. Ce sont des conservateurs, mais républicains, en apparence, ça fait des gens progressistes, ça fait des esprits libres, qui vont être les chefs de l'Espagne, sur le monde. Hein, on va les reconnaître tout le temps, vous savez, c'est Azaña, c'est Quiroga, c'est Zamora, ils s'appelaient des libéraux. J'aurais envie de dire, quoi, que je déteste ça, la politique, et je n'en fais pas maintenant. Disons que c'est peut-être semblable à nos radicaux de l'époque. Vous savez, quand on parlait du mot radical vers 1880, c'est sérieux. Un homme comme tout le monde saut en 80 jours, un changement radical de la situation. Justement, qu'en 1924-25 et après, nos radicaux avec M. Édouard Herriot en particulier, c'est pas tout à fait la même chose. Je ne voudrais rien dire qui puisse attenter à la mémoire d'un homme respectable. L'enfant M. Herriot était comme lui qui terminait surtout ses discours par des majuscules, et que d'autant plus sonore qu'il était creux. Et bien, c'est à peu près ça, vous savez. C'était ça, Azania, qui regarde, etc., faire beaucoup de bruit, progressiste, républicain, mais rien. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens, qui ne voulaient surtout pas toucher aux structures sociales? Ils ont fait de l'anticléricalisme. Et c'était nécessaire, très nécessaire. Vous n'imaginez pas ce que c'était que j'ai réglé une espagnole. Je vais vous en donner une preuve. Cette République avait décidé quelque chose qui m'apparaît le béardant, élémentaire, que les enfants qui ne voulaient pas, dont les parents ne voulaient pas, qu'ils suivent les cours de religion, et que ça ne revienne pas les suivre, ce sera de soi, hein. Et bien l'archevêque, Segura, qui simplement c'était le primat d'Espagne, avait maudit la République. Il a dit que cette République est inadmissible parce que tous les enfants doivent recevoir l'enseignement catholique. Alors deux fois par semaine, donc ça laisse descendre. Hein. Alors parfois, il avait raison de faire de l'anticléricalisme, mais ça leur servait surtout d'alibi. Il faisait de l'anticléricalisme nécessaire, mais Dieu fait insuffisant pour ne pas faire les choses capitales qui étaient les transformations agraires. Caballero, dont je viens de vous parler, il a eu une expression que j'ai vu dans un monde qui m'a frappé, que c'est assez joli image, ce qu'a fait le gouvernement République en 31 pour la situation sociale, situation agraire, c'est à peu près comme l'utilisation d'un cachet d'aspirine pour certains du sud, dit-il. C'est vrai, sérieux, quoi. Alors, naturellement, les gens vont être rapidement déçus, on va dire, ah, c'est République, ça n'a pas donné ce qu'on espérait. Nouvelles élections, du reste, anticipées en novembre 33, et comme ça arrive souvent, mouvement de bastion sur la droite qui va l'emporter. Par l'extrême droite, mais enfin, les gens beaucoup plus conservateurs, et les républicains espagnols qui commençaient déjà à se préparer, enfin, la gauche, quoi, appelaient ça le Genio Negro, c'est-à-dire les deux années noires. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ces deux années noires, qui vont de novembre 33 à février 36? Les deux événements principaux. Il y a eu d'abord une révolte de mineurs, les mineurs des Asturies. Je vous assure que la répression était sérieuse, hein. Quelqu'un, catholique de droit, enfin, qui se donnait pour catholique du sang, qui s'appelait Gilles, on a dit qu'il fallait prononcer Jules Robles, qui disait qu'il avait des côtés gauchers, a été un de ceux qui demandait l'écrasement le plus furieux de ces ouvriers des Asturies. Et quelqu'un dont vous n'avez plus encore entendu parler, ça, ce que je vous raconte se passe, je crois, en 34, février 34, un nommé Franco, qui va devenir chef de commandement général de l'armée, se couvre de gloire dans la répression des mineurs asturiens. C'est considérable. Un seul mot considérable, mais sur lequel je dois appeler votre attention, qui va se passer pendant le biennium nouveau, c'est ceci. En 32, quand il y avait encore un gouvernement dit de gauche, un général dont le nom est imprononçable, Sanjurjo, F-A-N-J-U-R-J-O, c'est-à-dire Rotab, c'est très difficile, enfin Sanjurjo, avait essayé un putsch. Ben, il avait raté, on l'avait arrêté, on l'avait condamné à mort, puis le gouvernement républicain, avec raison, avait remplacé la peine de mort par une peine de prison perpétuité, quoi. Eh bien, dès que le gouvernement de droit s'établit, on va le sortir de prison, on va même l'amnistier, c'est-à-dire qu'il était condamné pour une révolte contre la République, et il va être autorisé à se rendre chez Salazar, c'est-à-dire au Portugal, déjà juste en bordure de la frontière, guettant les opportunités. Nous arrivons maintenant à des élections normales qui sont de février 1936 et il se passe des choses nobles. Pour la première fois, on va parler de Front Populaire, Frente Popular, qui immédiatement en France, le chef des catholiques politiques français, c'est-à-dire le général de Castelnau, baptisera le Frente Popular. Alors Frente Popular, pour la première fois, va réunir à la fois les fameux libéraux, enfin les progressistes, entre parenthèses les radicaux, les communistes, qui étaient très peu nombreux, ils ont environ 30 000 à ce moment-là, et les anarchistes. Alors les anarchistes sont des gens qui maîtrisent l'État, qui refusent toute organisation étatique, et qui jusqu'alors refusent eux-mêmes de voter. Voter, c'est entrer dans le système. Et bien ils vont accepter pour la première fois les anarchistes en février 36 de voter. Sinon le Front Populaire, le Front Populaire va gagner les élections. Mais la majorité de ce Front Populaire est encore constituée par ces fameux libéraux dont je parlais tout à l'heure. Donc le programme est avant tout un programme anticlérical, on va avoir venir les Azania, les Quiroga, etc. Et depuis février jusqu'à juillet, car c'est en juillet que l'esclave va se produire, l'Espagne est en tumulte, c'est parfaitement en tumulte. Il y aura tout le temps des attentats, il y aura des tas de gnis et de couvents qui vont brûler, j'en parlerai dans la dernière partie, j'essaierai de comprendre pourquoi. C'est vrai, des centaines, environ 150 ou 160 églises et couvents vont être brûlés. Le Gil Robles, je vous parlais tout à l'heure, va faire une interpellation au Cortés de la Chambre, hein, en juin, apportant un chiffre, je crois l'avoir regardé, 250 attentats politiques depuis les élections de février. Bref, et quand il dit ça, Gil Robles, il veut faire croire que c'est l'extrême gauche qui tue tout le monde. El Campesino, ça veut dire le paysan, qui est un communiste, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui a publié ses mémoires l'année dernière, des mémoires un peu suspectes, je ne suis pas sûr qu'il dise la vérité. Rappelle ce mot que je crois, prononce ce mot que je crois parfaitement vrai, la phalange, cette organisme de droite dont je vais vous parler, avait fait des rues de Madrid un champ de tir pour elle-même. Les phalangistes établissaient un régime de terreur autour d'eux. Donc c'est parfaitement vrai qu'il y avait des attentats d'extrême gauche, mais n'oublions pas les attentats d'extrême droite. Alors devant ce tumulte, les fascistes, c'est-à-dire ceux qui préparaient un coup, vont faire ce qu'il faut pour que ça réussisse. Et à la différence de la France, un, les gens de droite vont s'unir, et deux, ils ont armé avec eux. Ils vont s'unir, c'est quoi? Ben, je viens de parler des phalangistes. Je n'avais pas nommé, parce que c'est pas indispensable, qu'encore à la dernière période de la monarchie, il y a eu Antonio Primo de Rivera, qui avait exercé, sous le contrôle d'Alphonse XIII, une dictature assez pacifiste, qui n'avait tué personne. Il avait un fils, je crois que c'était José Antonio, Primo de Rivera, qui avait créé, lui, la phalange. La phalange, c'est un mouvement qui se donnait pour progressiste en même temps conservateur. C'est-à-dire la meilleure façon d'être conservateur, c'est tout de même d'accorder un commencement de justice sociale. Ce qui fait qu'un certain nombre de gens, entre guillemets, de gauche, enfin naïfs, qui dit, tiens, la phalange, par exemple, peut-être une espérance. Vous aviez ça, les phalangistes, qui étaient en somme, vous savez, les fascistes camouflés. Puis vous aviez les monarchistes proprement dit, du côté de l'Aragon surtout, c'est-à-dire ceux qui voulaient rétablir à contraire, quoi. Falcondé était leur chef. Ils étaient déjà assez militarisés, ils portaient des bérets rouges, ils avaient un sacré cœur sur la poitrine parce qu'on sait qu'on le protégeait des balles. Enfin, c'était des gens qui en voulaient, mais qui étaient extrêmement progressistes. Autant, c'est-à-dire, au printemps 1936, entre ces phalangistes d'une part, qui étaient moins royalistes et les royalistes proprement. Et puis il y avait un petit groupe, Redondo, qui est régi par un homme Redondo, qui lui, très intelligemment, s'est mis en rapport avec les nazis. Redondo parlait deux fois pour les Hitler, et il avait fait des promesses. Je ne sais pas si c'était Hitler personnellement, enfin il avait été reçu à Berlin, et il avait été entendu que si un coup de force se produisait dans le bon sens, en Espagne, l'appui économique et militaire de l'Allemagne ne serait pas ménagé. D'autre part, Primo de Rivera, le Suisse, était en rapport permanent avec Mussolini, et était à plein coup d'un certain nombre d'émirs, mois par Mussolini. Voilà les chances qu'ils avaient du côté de la droite, hein, appui extérieur et entente, provisoire. Et l'armée, la France était capitale. L'armée espagnole, c'est peu de choses, c'est 5000 soldats, pas très guerriers, avec un nombre incalculable, enfin ridicule pour le nombre des soldats, de 220 généraux, 220 pour 5000 soldats, c'était beaucoup. Alors le gouvernement républicain avait décidé de diminuer, finalement, ce nombre géant d'officiers. Ils en avaient gardé malgré tout 14 000 officiers, j'ai dit officiers supérieurs, hein, pour 100 000 soldats, c'est beaucoup, mais on avait fait un véritable attentat, paraît-il. On avait supprimé l'Académie militaire de Saragosse, qui était évidemment un foyer d'hostilité au régime. Mais, et ça, il faut vous cacher, parce que quand j'ai appris, ça m'a tout de même assez étonné. On commence à la suite. Lorsque le gouvernement républicain s'est installé, il a donné le choix aux officiers. Il savait très bien qu'on avait cet obligeant San Roro. Il leur a dit, vous avez un choix, vous pouvez démissionner tout de suite. Et on vous assure, écoutez bien, on vous assure votre traitement, votre salaire, votre solde, jusqu'à l'âge normal de la retraite. D'autre part, si vous voulez rester, là, vous faudrez votre avancement normal, mais il faut que vous engagiez par serment, j'aime pas beaucoup ça, vous engagez par serment, être loyal et le garde de la République. Ben, il y en a très peu qui vont démissionner, il y a 90% qui vont faire prêter le serment, et vous verrez la façon dont ils vont tenir leur serment. Qu'est-ce qu'ils ont pour agir? Ben, ils ont les 38 hommes qui seront en armée espagnole, ça par contre. La seule armée espagnole mal entraînée, avec toute discipline, qui est endormie en Espagne, n'y a rien que barillon de ce qui se passe au Maroc espagnol. Maroc espagnol, 35 000 hommes en tout, composé de deux éléments parfaitement différents. Le tercio d'une part, tercio comme on dit, et d'autre part les régulares. Tercio égale légion étrangère. Mais la différence de la légion étrangère française, qui est composée, je crois, exclusivement, sans le dire, d'étrangers. Le tercio, légion étrangère espagnole, était composé de très peu d'étrangers, mais principalement de délinquants, condamnés à vie, prison à vie. À ce niveau, vous avez une chance de quitter la prison à vie, si vous faites un engagement de longue durée, je crois que c'est 10 ans, dans les banderas. Les banderas, c'est les groupes, les bataillons. Vous savez, c'est assez célèbre, hein, ça. Le mot d'ordre, enfin, le slogan du tercio, c'est « Vive la mort », comme est-ce qu'on est « Vive la liberté », je crois, hein, ça. C'était des gens dont la discipline était extrême, des soldats bien entraînés, et des robots. Ces délinquants, ce sont des gens qui n'ont aucune opinion politique. Vous savez, ils sont là parce que, pas faire un combat, ils sont en prison. On pourrait obtenir d'eux ce qu'on veut. L'entraînement de ces troupes est très puissant, ce sont des soldats disciplinés et disponibles. Et que c'est que les régulares, ben, ne jetons pas la pierre, nous l'avons assez fait, nous les Français, hein. Ce sont des indigènes qui passent au service de l'occupant. Nous avons une tirailleur algérienne, une tirailleur marocaine, etc. Voilà. Et les Espagnols ont fait la même chose. Ils ont offert de bons salaires, enfin, de bons traitements, de bonnes soldes plutôt, à ceux des Marocains occupés par eux qui voulaient bien les aider à écraser leurs compatriotes. Donc ça serait les régulares. Ben, là aussi, vous savez, ce sont des gens qui n'ont pas, enfin, qui sont des Arabes ou des Calais. Déjà qui n'ont pas d'opinion politique, et dont on peut faire militairement ce qu'on veut, comme des gens du perso. 35 000, hein, 35 000 au total. Et bien avec 35 000 hommes, ils ont l'impression, les conjurés que je vais énumérer, les conjurés ont l'impression que cette fois on peut y aller. Ils sont quatre, les conjurés. Il y a le fameux San Juro, dont je vais parler. San Juro est donc le territoire portugais, tout près de la frontière, est prêt à sauter. Et c'est l'aîné, d'autre part, c'est lui qui s'est compromis en 32, donc c'est lui qui, en principe, dirige tout. Derrière lui, tout de suite après, il y a le général Mola, qui était un personnage considérable, chargé, je crois, du gouvernement de la région de Pampelune, un homme estimable certainement, Godel, G-O-D-E-D, et Franco. Le gouvernement républicain savait qu'il pouvait compter difficilement sur le loyalisme d'un Godel et d'un Franco et les avait mis un peu à l'extérieur. Il savait peut-être que Godel était gouverneur des Baléares et que Franco était aux Canaries, mais non pas sur le sol espagnol proprement dit. C'est le 17 juillet que le jour a été fixé pour l'insurrection, pour le lancement du mot insurrectionnel. Peut-être est-il nécessaire que je fasse une très brève curriculum vitae pour expliquer qui était Franco. Il est un Galicien, c'est Galice, c'est donc l'extrémité nord-ouest sur l'Atlantique de l'Espagne. Né à La Corogne, son père était, je crois bien, amiral, amiral. Il avait décidé de faire une carrière militaire, appuyé sans doute par les facilités qu'il procurait son père. Mais je dois dire, c'était un homme travailleur et intelligent. Il a été, me dit-on, le plus jeune colonel de l'armée espagnole, puis le plus jeune général, et même sous le bien Nero, est arrivé à être donc chef d'état-major général. Il y a un mot qui est vulgarisé aujourd'hui, que je n'aime pas plus me répéter, charisme, vous savez, c'est le prestige qu'on a à cause de soi-même. Ben, il n'en avait aucun. C'est un petit joufflu, hein, qui ne parle pas très bien, il ne sort rien de lui, pas de rayonnement, mais il aura d'autres moyens de se faire obéir. Bon, alors voilà les quatre types qui, le 17 juillet, lancent leur affaire. C'est donc Franco qui prend la responsabilité d'envoyer depuis les Canaries un appel à toutes les garnisons espagnoles, soulevez-vous. Il sera, j'y insiste, il sera extrêmement prudent, Franco. Étant donné que c'est le 17 juillet qu'il lance son appel à une insurrection militaire, et que, suivez-moi bien, c'est le 6 août seulement, hein, le 17 juillet, le 6 août seulement, qu'il mettra le pied sur le sol espagnol. Jusque-là, il va rester au Maroc espagnol pour voir comment ça tourne. Il est arrivé à Tétouan par avion depuis les Canaries le 18, et dès le 18, à Tétouan, on a vu les caractères impitoyables d'aller prendre cette révolte, pour de bon. Hein. Là, il avait un collaborateur, Franco, qui s'appelait Sedi, et qui, armé de son revolver, entre dans le bureau du général Romerales, qui commandait la forteresse de Melilla, lui demande de se rallier au coup de force. Romerales, qui est un naïf, dit « Mais non, j'ai fait un certain serment, quoi, j'ai promis de défendre la République. » Alors le colonel s'est dit tranquillement, là-bas, à coup de revolver, là-bas, ce général à coup de revolver dans son bureau. Et quand le 18, Franco personnellement arrive à Tétouan, il organise, il indique comment les choses doivent se passer. On avait fait, avec soin, la liste des gens de Tétouan, c'est-à-dire des Européens de Tétouan, qui étaient suspects, qui pensaient mal, qui n'allaient pas marcher. Alors on les arrête tout de suite, il y a un premier camp de concentration, et un certain nombre sont suivis. Donc fusillade immédiate, l'arrestation immédiate, c'est sérieux. Néanmoins, j'insiste sur le fait qu'après avoir tout le Maroc espagnol, c'est facile pour toi, avant de se risquer en Espagne proprement dit, il va attendre un certain temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer européen dans l'Europe? Comment est-ce qu'on va être accueilli cette nouvelle considérable qui a une grande révolte, la révolte militaire très dangereuse en Espagne? Ben, vous doutez bien que les Allemands et les Italiens sont ravis. Ils avaient d'ailleurs payé d'avance ce qu'il fallait. Et comme il s'agit de faire passer le plus rapidement possible les 35 000 hommes du Maroc espagnol sur le territoire espagnol, Hitler va offrir tout de suite des avions, pas des avions militaires, des avions de transport, et il y aura un pont aérien établi immédiatement dès la fin de juillet pour permettre à ces 35 000 hommes de passer sur le territoire espagnol. Quant à Mussolini, il va envoyer deux avions militaires qui, croyant qu'ils étaient arrivés à l'extrémité ouest de l'Algérie, vous voyez, dans une carte, hein, l'extrémité ouest de l'Algérie, ça touche à l'extrémité orientale du Maroc espagnol. Donc ces avions italiens se sont posés en territoire français algérien, croyant qu'ils étaient en territoire marocain, on les a naturellement capturés, ils possédaient des déguisements déjà d'officiers d'aviation espagnole, et surtout leurs ordres de mission étaient datés, écoutez-moi bien, du 15 juillet. 15 juillet, les Italiens avaient décidé d'envoyer ces hommes, alors que le coup allait se prononcer, allait se faire le 17 juillet. Bon, alors appui militaire immédiat, faible encore, mais vous allez voir, les Italiens, et appui considérable pour le pont aérien, les Allemands. Et la France, c'est ce qui m'intéresse le plus. Vous avez peut-être lu le beau bouquin de mon ami et parent, Jean Lacouture, sur Blum. C'est un livre que je trouve parfait. Mais là, dans son chapitre sur Blum, j'ai pu affectueusement lui dire que je ne marchais pas. Parce que la conclusion de son chapitre, Blum et l'Espagne, c'est ceci, vous rappelez peut-être par ça ou par vous. Ça ne vous dit peut-être rien, c'est une allusion ici qui s'est passée à la Chambre en printemps 1910, entre Briand, président du Conseil, et Jaurès. Briand était un ancien socialiste d'extrême gauche, l'homme de la guerre générale, c'était peut-être en 1900. Il était maintenant président du Conseil, il y avait la grève des cheminots, Et il avait décidé, lui, brillant, de la briser, cette grève des cheminots, avec la même violence que Clemenceau avait brisé les grèves ouvrières de 1907-1908. Alors, lui, le reste, c'est juste ce mot retentissant, par ça ou par vous. Une opération pareille, une opération de répression des grévistes, c'est particulièrement affreux, c'était vous, ancien gréviste, ancien ami des grévistes, qui le fait. Alors, non, l'ami La Couture dit, le comportement de Blum à l'égard de l'Espagne n'aurait pas dû faire ça, en tout cas pas ça ou pas même. Et c'est pas que je sois passionné par Blum, quand même que je respecte, que j'ai connu un peu, que qui mérite vraiment le respect. Mais je vais le défendre, c'est-à-dire espagnol, en vous expliquant bien comment les choses sont présentées. Je vous assure, et qu'il dit de près, puis j'ai une petite chose personnelle en plus à vous dire là-dessus. C'est dans la nuit du 19 au 20 qu'il reçoit de Riral, G.I. Riral, qui était nouveau chef, nouveau président du Conseil, qui paraissait un peu plus à gauche que Quiroga, son prédécesseur. Il reçoit, Blum, dans la nuit, un télégramme personnel, attention, personnel de Riral. Ben, un gouvernement étranger qui s'adresse au gouvernement français devrait passer par l'entremise de son ambassade. Mais Riral savait que l'ambassadeur d'Espagne à Paris était déjà gagné aux idées franquistes. Alors il ne voulait pas passer par son intermédiaire. Riral s'est dit, j'ai le droit de m'adresser fraternellement, puisque je suis un des chefs du Frente Popular au chef du Front Populaire français. Alors dans cette nuit, 1920, il lui dit, sommes surpris par dangereuse insurrection militaire, je vous demande un entretien rapide pour fourniture de matériel. Il y avait trois raisons que je vais expliquer pour lesquelles Blum devait dire oui. La première raison, c'est que, ah, il faut que vous sachiez, le lendemain, il y a eu un télégramme complémentaire pour indiquer ce que c'était qu'on nous demandait, nous, à la France, comme matériel. Il faut que vous le sachiez, parce que les cris qui vont être poussés par la presse de droite étaient absolument injustifiés. Les Espagnols nous demandaient 20 hôtels. L'hypothèse, c'est des avions qui n'étaient déjà pas de premier plan. Hein. C'est des avions, je ne dis pas réformés, mais qui n'étaient pas nos meilleurs. 20 hôtels, 50 mitrailleuses, 50 mitrailleuses, et 8 canons 75. Ajoutons 1 million de cartouches. Mais je récite 20 vieux avions, 50 mitrailleuses, 8 canons. Pas ça. Voici les trois raisons pour lesquelles nous, Français, devions les appuyer. Prime en 1935, du temps de Laval, qui a été président du Conseil, il y a eu un accord économique entre la France et l'Espagne pour des fournitures de matériel, y compris militaire, occasionnellement. Et jusqu'à 20 millions, jusqu'à 20 millions, en concurrence de 20 millions, c'était pas d'autre chose. Hein. Et bien, ce qu'on demandait représentait, paraît-il, à peu près 10 millions, c'est-à-dire la moitié de ce que la France était engagée par signature à fournir aux Espagnols. Et donc nous devions, sur ce plan juridique, commercial et tout simple, honorer notre signature. Mais ça, c'est peu de choses. Deuxième raison, c'était une raison politique. C'était un gouvernement normal, normalement constitué, régulièrement constitué, un gouvernement issu d'une consultation générale qui n'avait pas été truquée, issu du suffrage universel espagnol, qui demandait appui à un gouvernement frère, puisque c'était un gouvernement normal, légal, régulièrement constitué, et qui représentait la volonté nationale en France. Il est donc tout à fait naturel que le Front Populaire français aida le Front Populaire espagnol qui se défendrait contre une insurrection militaire. Mais il y avait une troisième raison dont on parle peu et que je voudrais vous mettre en lumière. Depuis 1922, nous étions menacés. Faiblement, mais ça allait être plus grave. Nous étions menacés du côté de la frontière des Alpes par un Mussolini qui, au début, n'avait pas trop annoncé ce qu'il voulait et qui, peu à peu, annonçait « Je veux prendre François Djibouti, la Tunisie si possible, peut-être même la Corse-Tunis. » Donc nous avions là, au sud-est, quelqu'un de dangereux. Mais nous avions au nord-est, quelqu'un d'infiniment plus dangereux, qui était Hitler. Puisque depuis Mein Kampf, en 1924, il avait annoncé qu'il ferait la France, qu'il prendrait non seulement la Slovène qui nous revient, mais même une grande partie de la Champagne. Alors si maintenant, au sud, derrière les Pyrénées, nous avions un régime qui dépendait militairement, matériellement, du fascisme et du nazisme, c'était une troisième frontière à défendre. Il allait être entièreté. Tant que la France avait derrière les Pyrénées un régime à nous, un régime de gauche, pas besoin de mettre des soldats à la frontière. Mais si nous avions là un conflit, des Allemands et des Italiens, c'était une frontière plus à défendre. Donc les raisons de sécurité française s'imposaient de la manière la plus absolue pour la fourniture d'une aide matérielle, je ne dis pas même de soldats, on n'en demandait pas, d'une aide matérielle à ces flingues menacées. Eh bien, vous savez qu'il n'y aura pas moyen. Et Blum avait dit oui tout de suite. Et il sera obligé de dire non. Le 25, pourquoi donc? L'attaché militaire espagnol s'appelait Barroso. C'était un complice de Franco, comme son chef, l'ambassadeur, ils vont démissionner du reste dans trois jours. Mais avant d'avoir démissionné, Barroso, qui était reçu dans tout Paris, c'est un homme élégant, quoi, était allé voir l'Action française et les Côtes de Paris, et sans dire ces chiffres, que je vais vous donner, moi, ces chiffres si faibles, avait dit, Le gouvernement républicain espagnol, composé d'assassins comme chacun sait, demande un appui militaire, ou un impérial gouvernement français. Alors je vous dis ça avec peine parce que je l'aimais bien, et je l'aime toujours, François Mauriac va faire un terrible article dans les Côtes de Paris. Il va changer à partir du 15 août et vous verrez pourquoi. Et ce premier article, dicté par Barroso, en somme, par la pêche militaire, et espagnol, c'est ceci. Si le gouvernement que nous avons, si M. Blum accepte de soutenir les assassins espagnols, qui tuent les religieuses, paraît-il, il prouvera qu'il n'est pas un homme d'État, mais qu'il est un chef de secte. Et si Michel, c'était un juif, bon, c'est comme ça. Cartier, surtout, Raymond Cartier, qui est mort aujourd'hui, mais qui s'était fait une grande notoriété après la guerre dans Paris Match, vous savez. Cartier, c'est lui aussi un article fulgurant dans les Gaux de Paris. Et enfin, Maurras, comme d'habitude. Maurras dit, parce que Maurras avait l'habitude de parler, je sais pourquoi, au nom de la France. La France interdit, aux juifs Blum d'aider les assassins rouges. Il avait tout de même une raison que je viens de vous dire, sérieux, c'était la raison de la protection, de la sécurité nationale française. Mais il faut vous cacher, j'ai fait une étude là-dessus et je sais bien qu'on me le reproche terriblement, mais j'ai dit la vérité. Cette droite française, extrême droite française, était merveilleusement indifférente à la défense nationale, parce qu'il s'agissait avant tout de ne pas compromettre ce barrage que faisait Hitler à l'égard de la subversion commune. Songez donc au mois de mars de cette même année 36, quand Hitler avait remilitarisé la rive gauche du Rhin. Voulez-vous que je vous rappelle les choses? Les Français devaient occuper la Rhénanie pendant un certain nombre d'années. Brisant avait proposé aux Allemands, librement Stresemann, 1925, de réduire le temps d'occupation, et en compensation, les Allemands, librement, Stresemann, 1925, avaient dit, eh bien, nous nous engageons à ne pas mettre de troupes dans cette région que les Français vont évacuer, à l'Ouest. Bon, eh bien, le 7 mars 1936, au mépris des engagements, Hitler envoie des bataillons, peu de choses, c'est pour voir ce qui s'est passé, enfin, envoie des bataillons de l'autre côté du Rhin, dans cette région qu'il avait promis de ne pas remilitariser. Peut-être casus belli. Je ne peux pas me prononcer, je crois qu'ils ne sont peut-être pas militairement en moyen de faire la guerre. Ce qui est très important, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est la réaction de nos droites, de notre droite et extrême droite. Figurez-vous qu'il s'est constitué à ce moment-là un groupement éphémère, mais qui a existé, donc il faut savoir qu'il a existé, qui s'appelle Comité de vigilance des jeunes Français mobilisables. Vous entendez, je répète, hein, Comité de vigilance des jeunes Français mobilisables, dirigé par deux personnages, dont un est resté célèbre et dont l'autre mérite de l'être. Le premier célèbre, c'est d'Arc, c'est le poids, vous savez, hein. Et un autre, qui est aujourd'hui très brillant, c'est qui admène l'Académie française, qui s'appelle M. Thierry-Maurice. Eh bien, ces deux personnages ont réuni le groupement, et je vous dis, et c'est un grand meeting qui s'est déroulé, je crois, le 14 mars à Magic City, 3000 types par là, disant c'est la guerre des Juifs. Si on veut nous faire battre avec Hitler, ce sont ces Juifs, parce qu'ils détestent Hitler, ces gars-là, nous ne l'appelons pas. Vous entendez, ce sont des jeunes gens français mobilisables qui disent qu'il y a une certaine guerre qu'on ne fera pas. Quand je me rappelle 1914, j'avais 11 ans, hein. Si jamais en 1914, au printemps 14, des types d'extrême gauche, je ne sais quels anarchistes, avaient annoncé, mais ça publiquement, si M. Poincaré fait la guerre, on ne marchera pas. Et vous savez, ils ont été foutus en prison tout de suite. Et bien voilà des jeunes français mobilisables qui annoncent, si nous nous jetons contre Hitler, on ne marchera pas. Seulement c'est les Français distingués, vous savez, ces 3000 types d'action française, c'est une fille de famille. Alors, on ne peut pas toucher à ces gens-là, et simplement, ils sont convoqués par Sarrault. C'est Sarrault qui est président du Conseil. Je ne sais pas, je crois que Darcy est peut-être pas qui a vu Sarrault, lequel lui a dit, vous mettez dans un mauvais cas. C'est une chose qui va m'obliger à saisir, j'en suis extrêmement triste. Alors, ils ont baissé le ton, et on ne parlera plus de ça. Si cette guerre-là, nous ne la ferons pas. Mais, le 15 mars, c'est-à-dire le lendemain, dans l'Action française, rendant compte de ce que je viens de vous dire, M. Maurras dit, si jamais, le gouvernement français, décide de faire la guerre à Hitler, nous n'avons aucun goût pour une croisade juive. Voilà les mots de Maurras. Nous n'avons aucun goût pour une croisade juive. C'est-à-dire que se battre contre Hitler, c'est une croisade juive. Alors, si je vous donne ces détails, c'est pour vous montrer à quel point nos nationalistes, parce qu'ils s'annonçaient comme les nationaux, les super patriotes, à quel point ils étaient indifférents à la défense nationale lorsqu'il s'agissait de ne pas porter corps à un régime aussi agréable que celui de Mussolini ou celui de M. Hitler. Alors, bon, la presse explose. Mais ce n'est pas grave pour Blum. Ce qui est très grave, c'est l'attitude des seuls gens dont il dépend, les comme les radicaux. Je ne fais pas de polémique, je vous assure, je ne fais pas de polémique. Mais je vous signale qu'en novembre 1935, Thorez avait promis à Blum qu'au cas de succès du Front populaire, il participerait au gouvernement. Les communistes avaient dit oui. Puis Thorez a changé d'avis. Peut-être, sur quelle instruction, jurait-il que quand le gouvernement s'est constitué, le Front populaire ayant gagné, les communistes n'ont pas participé, ils ont dit simplement on va soutenir. Alors, le gouvernement de Blum, vous le savez, c'est un gouvernement de coalition socialiste et radicaux. Et si les radicaux le plaquent, ils tombent. Or, tous les chefs radicaux viennent lui dire tout de suite, les 23 et 24 juillet, surtout ne bougez pas. Il y a la phrase célèbre, qui est vérifiée, qui est l'historique, de Herriot, qui était plus vieux que lui, qui était président du conseil. Et il leur a dit, la phrase a été imprimée, mon petit, il l'a dit, voyez, mon petit ne te fourre pas dans cette histoire-là. Hein. Mon petit, Hugo, il ne te fourre pas dans cette histoire-là. Alors il y a Jean Monnet, qui est lui le président du Sénat, radical aussi, et qui dit, pour rien au monde, s'engager dans une affaire pareille. Il y a Lebrun, il est le président de la République. Et le président de la République, il va voir Blum tout de suite, il dit, surtout pas, ne bougez pas, ça, nous ne pourrons pas vous soutenir, hein, on n'a pas moyen. Si vous voulez engager la France dans un soutien à la République espagnole, nous serons obligés de l'abandonner. Alors Blum se dit, si il démissionne, c'est qui? Bah, c'est le vice-président, c'est-à-dire Chautemps. Et Chautemps est archi opposé à cette période. Alors vous avez déjà, nationalement, sur les politiques intérieures, un Blum qui a les mains liées. Et d'autre part, vous avez l'alliance que la France avait à ce moment-là avec l'Angleterre et qui nous était indispensable. Il est absolument qu'on garde le bloc franco-anglais qui était notre protection contre Hitler. Et les Anglais sont intraitables. Vous savez sans doute à quel point ils seront gentils. Anthony Chamberlain, vous vous rappelez, il déplacera deux fois personnellement pour aller voir Hitler, parce qu'il est gentil. Chamberlain dit, ah, non, il ne faut pas faire ça. Cette révolution espagnole, Dieu sait, ça peut être communisant, ça va inquiéter le chancelier Hitler. Je vous demande instamment de ne pas intervenir. Nous, on va envoyer Darlan. Darlan, c'est le chef de la flotte française, qui pense intéresser les Anglais en leur disant, écoutez, du point de vue même britannique, il ne faut pas laisser les Italiens, qui vont évidemment profiter des choses, mettre des bases militaires aux Baléares. Enfin, vous allez avoir une Méditerranée occidentale, oui, qui deviendra une Méditerranée italienne. Ben, même ces arguments ne font rien auprès des Anglais qui ont horriblement peur de gêner M. Hitler. Alors, nationalement, il ne peut pas bouger, Blum, puisque les radicaux vont le lâcher, et extérieurement, internationalement, il ne peut rien faire parce que les Anglais disent non. Alors il est tellement bouleversé que le 25 au matin, il dit je démissionne. Je lui connais un peu Blum, vous savez, c'est un homme facilement émotif. Et quand j'ai lu dans un texte, il a failli pleurer, parce que j'aime pas beaucoup les hommes qui pleurent, mais en fait, il semble que ce 25, il était tellement malheureux qu'il a changé d'émissionner. Et c'est un émissaire de Rival qui est venu le trouver, enfin, il dit à Samuel, qui lui a dit non, ne partez pas. Je serai remplacé par Chaussant, ça sera pire, hein. Avec vous, peut-être qu'on pourra s'arranger en deux, on la stylise, hein. Mais avec un homme comme Chaussant, on est foutu. Alors Blum va rester, tristement. Et la solution, va lui être proposée par le secrétaire général des Affaires étrangères, qui s'appelait, comme vous savez, Alexis Léger, plus connu en littérature sous le nom de Saint-Jean-Pierre. Je ne sais pas comment interpréter cette proposition de Saint-Jean-Pierre, parce que ce n'est pas possible qu'il y ait cru. Saint-Jean-Pierre dit à Blum, écoutez, on va tenter de réunir une réunion, c'est d'organiser une réunion internationale européenne, pour obtenir des grandes nations européennes une promesse de non-intervention. On va tous se réunir pour dire, alors, on n'intervient pas, la France fait rien, mais vous non plus ne faites rien. C'était déraisonnable, et comme les coups, on savait déjà, les affaires étrangères étaient renseignées, on savait qu'il y avait le pont aérien allemand, on savait qu'il y avait ces deux officiers italiens dans des avions de guerre italiens qui étaient partis pour l'Espagne. Demander aux Allemands, aux Italiens de s'engager à ne pas intervenir, c'était presque aberrant. Pourquoi il a fait ça? Vous savez, la situation internationale était dangereuse. Hein. Nous avions absolument besoin d'unité, en fait, de l'accord des Anglais. Au moment, en 1935, l'année précédente, les rapports franco-anglais s'étaient très détendus, enfin non, comme est-ce qu'on dit, c'était crispé, au contraire, parce qu'il y avait eu l'affaire de l'Éthiopie. Vous savez peut-être que Mussolini avait attaqué l'Éthiopie qui était membre du Conseil des Nations, l'Angleterre avait poussé des cris, juridiquement, en apparence, en disant que c'est très bizarre d'avoir fait ça, mais en réalité c'est parce que les Anglais étaient assez contents quand c'était un milieu de rien du tout qui contrôlait une des sources du Nil, tandis que c'était l'Italie qui s'empara de l'Éthiopie, pouvait contrôler une des sources du Nil, ça n'allait plus. Alors l'Angleterre avait été très hostile à cette affaire. Et notre gouvernement, c'était qui? C'était Laval, qui ménageait la droite, avait été de la dernière gentillesse, la plus grande gentillesse à l'égard de Mussolini. Les Anglais avaient demandé des sanctions économiques, bien sûr, c'est juste passé la guerre à l'Italie. Hein. Les sanctions économiques, bien sûr, auraient pu être très graves. Les Anglais disaient, on va demander l'embargo international du pétrole à l'égard de l'Italie. Ben, si l'Italie n'a plus de pétrole, il ne pouvait plus continuer son offensive. Alors Laval avait trahi les Anglais, avait pris une position, il avait dit, interdit, non, je ne veux pas, il ne faut pas ennuyer nos amis italiens. Alors la situation avait été très mauvaise, vous savez, entre la France et l'Angleterre, au point que, vous savez bien, Henri Béraud, dans le journal Candide, va faire un titre flamboyant, faut-il réduire l'Angleterre en esclavage? Alors je pense qu'un homme comme Alexis Léger, qui dirige une nouvelle étrangère, était très inquiet d'un éloignement les Anglais à notre égard, et ils traversent tout pour que les Anglais restent fidèles à leur engagement. On m'a dit, mais je n'ai pas pu trouver de preuves, le bruit a couru, que les Anglais auraient fait doucement, oralement, sans rédaction, une menace à la France en disant, si une guerre éclate, à cause d'une intervention que vous auriez faite en Espagne, nous retirons notre engagement. Les Anglais s'étaient engagés à nous soutenir dans une guerre contre l'Allemagne. Les Anglais auraient dit, je n'ai pas la preuve, auraient dit, cette clause, l'appui militaire, ne jouera pas si la guerre se déclenche à propos de ça. Donc voilà, alors, pendant un certain nombre de jours, il va y avoir des hésitations, est-ce qu'on signe, est-ce qu'on signe pas. C'est le 8 août seulement, hein, que la convention, je ne sais pas comment dire, cette conférence de Londres, va organiser cette promesse, de l'intervention. Et entre le 25 juillet et le 8 août, c'est vrai que le gouvernement Blum va faire passer tout ce qu'il pourra par la frontière espagnole. Les hypothèses vont passer, Blum fermera les yeux sur les travaux ou sur les opérations de Malraux, dont je parlais tout à l'heure. Malraux achète, vous savez, des vieux avions, pas l'hypothèse, pas des avions militaires. Il achète de vieux avions, des avions réformés, il trouve des mercenaires, une vingtaine à peu près d'avions vont passer la frontière. Et enfin, la France apportera en douce tout ce qu'on peut. Très peu de choses. Mais à partir du 8 août, réellement, on ferme la frontière. Vous savez bien ce qui va se passer, c'était l'affaire d'Irune, bien fait, June, du 4 septembre, lorsque les Français ont attaqué la ville d'Irune, et vous savez que Irune est à côté de notre frontière, c'est à 1 kilomètre, quoi. Eh bien, nous avions des troupes qui étaient stationnées là, qui ne doivent pas bouger. Nous avions des wagons de matériel de guerre qui étaient là dans le garde, qui ne doivent pas bouger. Et on va assister à l'écrasement des malheureux républicains d'Irune, parce qu'on ne doit pas bouger. Ce qui ne va pas empêcher, parallèlement, les Italiens d'envoyer soldats sur soldats, les Allemands d'envoyer la Légion Condor, Légion Condor c'est des aviateurs, c'est Guérin qui veut essayer un peu ses avions là-bas et aussi quelques temps. Les Italiens seront au total, donc 60 000, jamais en même temps 60 000, hein. Mais on en verra successivement, ils ont été au maximum 40 000 ensemble, c'était quelque chose, 10 000 Allemands, 40 000 Italiens, c'est quelque chose. Nous, la France, c'est vrai, clandestinement, et assez moche, d'une manière assez moche, en douce, on fera passer un peu de matériel, mais à peu près rien. La France va accepter de créer une société fictive, France Navigation, avec les Soviétiques, pour recevoir du matériel soviétique, car avec une loyauté qui ne lui était pas habituelle. Le 7 octobre, Staline, qui avait donné son accord à la non-intervention, va retirer sa force. En disant, il est tout à fait évident que personne, et surtout pas les Italiens et les Allemands, ne respectent l'accord, et bien je reprends ma liberté. Alors à partir du 7 octobre, l'Allemagne, la Russie va fournir, et puissamment, des secours militaires, du matériel, aux Espagnols, et le 26 octobre 36, 510 tonnes d'or, c'est chaud, hein, 510 tonnes d'or, vont partir des Carthagènes à destination d'Odessa pour payer ses fournitures. Bon, ben la France a créé France Navigation, alors on reçoit du matériel soviétique dans les ports, Cherbourg et ailleurs, on le démonte, on le met sous fausses indications, ça dans les caisses, et on fait passer assez tristement ce matériel. C'est rien, ce que la France aura matériellement fourni. Et ce que la Russie va fournir, ce qui n'est pas rien, des tanks et des avions, c'est quand même rien aussi, en comparaison, ça fait minime, en comparaison de ce que les Allemands et les Italiens vont fournir. Bon, ben tout ça, vous voyez, c'était presque un préambule, je ne suis pas encore dans le coup. Alors, quel est le rapport des forces? Lorsque 17-18, les insurrections se produisent partout, puisque toutes les casernes sont mobilisées, toutes les troupes doivent sortir des casernes pour s'emparer des gouvernements locaux, enfin des municipalités. Ça n'a pas tellement bien marché, hein, pas tellement bien marché. Dans la région, c'est pour ça que Franco avait attendu, hein, dans la région de Séville, oui, à Séville, c'est la droite qui gagne. Tout le monde, vous avez une carte dans l'esprit, hein, une carte de l'Espagne, c'est la frontière, si je puis dire, verticale, enfin, elle va du nord au sud, le long du Portugal. Et bien depuis la Galice, qui est le pays franco qui a bien marché, l'Aragon aussi, regardez verticalement, descendez du nord au sud, tout le long de cette frontière, toute cette région-là est entièrement gagnée à l'insurrection française. Sauf la charnière centrale, regardez la carte, dans votre esprit, c'est Badajoz. Petite ville de Badajoz, qui est contre la frontière portugaise, et qui là est restée au pouvoir des républicains. Mais les trois plus grandes villes espagnoles, Madrid, Barcelone, Valence, ces trois plus grandes villes espagnoles n'ont pas marché. La population est arrivée, elle est ouvrière, est arrivé à venir à bout de ces soldats qui sortaient de la caserne sans beaucoup de courage, mais poussés par leurs officiers. Godet, hein, le Godet qui commandait à Barcelone, il s'est arrêté, je crois qu'il a été fusillé, enfin il est arrêté par les républicains. À Madrid, échec également de l'insurrection. Les trois grandes villes, les trois plus grandes villes de l'Espagne restent républicaines. Il n'y a pas seulement ça, le Pays Basque ne veut pas marcher. Pays Basque avait obtenu des républicains une chenille économique qui leur paraissait insuffisante, mais enfin qui paraissait un peu satisfaisante. Tandis qu'avec un gouvernement militaire, ils étaient sûrs, les gens du Pays Basque, d'être réduits à ce qu'ils appellent un esclavage. Alors, si catholique que ce soit, il l'était, le Pays Basque, il va rejoindre les républicains qui, Dieu sait, eux ne sont pas catholiques. Du côté du Pays Basque, c'est l'épée. Ce qui fait que, d'une part, la population, le plus grand nombre de la population est non franciste, les endroits importants industriellement pour le sous-sol ou pour le sol sont également aux mains des républicains, quoi ? Dans la région de la sidérurgie, avec Bilbao, Santander, enfin tout le nord, et la région textile, c'est-à-dire le nord de Barcelone, enfin toute la Catalogne. Donc, au premier au départ, quoi, ça me semble pas brillant. Mais si vous regardez mieux les choses, c'est le rapport des forces du point de vue militaire, et puis d'un père militaire, puisqu'on est en direction de soldats, logiquement. Ça, les militaires, ça alors, le rapport des forces joue absolument en faveur de l'insurrection franquiste. Pourquoi ? D'abord, sur ces 100 000 soldats, ils n'étaient pas 100 000 dans la région qui restait républicaine, à peu près tous les officiers qui avaient fait le serment, que vous savez, vont violer ce serment. 90% des officiers vont trahir. Alors ces troupes sont sans cadre. J'ajoute en plus que ce n'étaient pas des troupes très entraînées. Bon, il va y avoir des milices spontanées, des milices surtout anarchistes, avec ce Dorothée dont je vous parlerai. En Catalogne, il y a des gens qui veulent se battre. Mais avant tout, ces milices sont anarchistes, c'est-à-dire qu'ils refusent la discipline. Et je crois que c'est dans Félix Moreau, un livre dont je vous parlais tout à l'heure, un livre américain, qui a été publié seulement en 1977, qui avait été écrit en 1837. Félix Moreau, oui. Il y a Félix Moreau rappelle qu'il a vu de ses yeux, à Madrid, l'instruction suivante, vive l'organisation de la lutte contre la discipline. Je vous répète, vive l'organisation de la lutte contre la discipline. C'est-à-dire, ces milices ne veulent pas se battre, mais surtout pas marcher au pas. Il leur arrive de décider, ils veulent très bien ne pas marcher au pas. Ils n'acceptent jamais un seul commandement. Ils vont se battre sur le front d'Aragon, par exemple, hein, dans la journée. Ils ont amené leur guitare, c'est pas coupable, mais la pépée aussi. Alors le soir, on va se chier avec la pépée, mais bon, le front, bah, on verra demain. Hein. Faut donner ça, c'est pas une armée. C'est les bras fous, ils sont courageux, mais absolument refus de discipline. Et enfin, ces 35 000 gars, hein, qui, je ne dis pas qu'ils en veulent, mais on veut faire ce qu'on veut. Alors autant c'est facile, si vous voulez, à une population ouvrière courageuse, de s'emparer d'une caserne et de mettre quelques officiers en prison, autant c'est impossible. Quand on n'a pas d'armée, quand on a cette poussière de soldats, de miliciens indisciplinés, c'est impossible de lutter avec une armée de 35 000 hommes puissamment constitués. Je voulais vous dire quelque chose, c'est que Franco, il avait une grande veine pendant qu'il attendait. Hein. Sa grande veine, c'est ceci, le Sambuco. Il était parti, 18, comme c'était entendu, hein. Mais son président s'était écrasé. On raconte là, je ne suis pas sûr, c'est pas si joli, mais je ne suis pas sûr. Et quand je ne suis pas sûr, je dis que je suis pas sûr. On dit qu'il est tombé par sa faute, parce que le petit avion qu'il avait pris, on lui avait expliqué, le pilote lui avait dit, il ne faut pas le surcharger, et lui avait exigé qu'on mit dans son avion deux mâles qui contenaient ses grands uniformes de gala. Il paraît que c'est ça qui a exagéré le poids de l'avion, enfin il est tombé, quoi. Alors je pense que, genre, je ne suis pas méchant, mais je pense que Franco s'est dit, pas mal, c'est un jour, mais pas. Et puis Gotthard, la Gotthard, je viens de vous le dire, qui commandait à Barcelone, s'est fait capturer à Barcelone, qui commandait au Baléa, s'est fait capturer à Barcelone. Mais c'est plus que Mola, sur les tables. Mola et Franco. Et bien Mola va également périr un peu plus tard, dans un accident d'aviation, et l'ambassadeur von Storer, qui est le deuxième ambassadeur que Hitler enverra à Burgos, enverra une lettre à Hitler, enfin un télégramme que certainement Franco ne verra pas. Le général Franco ne peut difficilement cacher son indubitable soulagement d'avoir vu disparaître le général Mola. Alors il n'y a plus personne à cause de l'intelligence. Et il s'est arrivé à arranger pour se faire nommer, ça, c'était le soulagement généralissime, puisqu'il avait autrefois chef du directeur général de l'armée. Mais le 30 septembre, grâce à son frère Nicolas, qui a joué là le rôle que Lucien Bonaparte avait joué le 18 Brunner, vous rappelez bien que c'est Lucien qui a sauvé la situation, Nicolas a fait un coup très amusant que voici, ce 30 septembre, la Junta, la Junte hein, de défense nationale, comme ils appelaient ça leur gouvernement militaire de Burgos, avait décidé que le général Franco serait chef de gouvernement. Vous avez entendu, hein, chef de gouvernement. C'est Nicolas, le frère, qui est chargé de porter ça à l'imprimerie, dite nationale. Mais il modifie le texte, et au lieu de chef de gouvernement, il y a chef d'État. Il y a une grande différence entre un chef de gouvernement et un chef d'État. Si bien qu'à la grande surprise de cette junte militaire, le lendemain du 1er et du 30 septembre, on va voir les journaux de la zone occupée, enfin de la zone insurgée, annonçant, pour la surprise des militaires, que le général Franco devient chef de l'État. Bon, alors voilà ce que je vais vous expliquer pour la sécurité militaire, et maintenant regardons ce qui se passe au gouvernement proprement. Jusqu'au 4 septembre, ça va être ces libéraux radicaux dont je vais parler. Mais le 4 septembre, date facile à retenir, puisque comme le 4 septembre 1870 en France, hein, un nouveau gouvernement va se constituer, celui-là c'est un gouvernement socialiste avec notre fameux Largo Caballero. Et de même qu'il avait été très saisissant de voir des anarchistes qui acceptaient de faire, comme on dit, leur devoir civique et de voter, de même, dans ce gouvernement du 4 septembre, on verra pour la première fois en Europe des ministres communistes. Nous, les Français, nous aurons grâce à De Gaulle des ministres communistes en 44 et en 45, mais en 36, aucun. Et donc voilà, deux communistes, entendez bien, deux communistes qui vont entrer au gouvernement, c'est déjà pas mal. Mais deux anarchistes aussi, des anarchistes qui deviennent ministres. Ça veut dire à quel point qu'on essaye de faire tout de même une unité des forces de gauche. Quels sont ces communistes et anarchistes? Jésus, je ne sais pas comment on le prend, Jésus Hernandez, qui va avoir le portefeuille de l'instruction publique, Uribe, qui aura le portefeuille de l'agriculture, Federica Mancini, qui a le portefeuille de la santé publique, et le dernier, c'est Garcia Oliver, qui sera ministre de la justice. Or, ce ministre de la justice est un anarchiste. Là, vous verrez que ça se croit et se marier un petit peu, en fait, c'est l'humour noir, que ce soit un anarchiste qui soit ministre de la justice. Bien. Ce gouvernement n'a absolument pas écouté, il n'a absolument pas. Vous savez, lorsqu'ils vont être obligés, et c'est pas blâmable, de se retirer de Madrid pour n'être pas trop près du combat et de se retirer jusqu'à Valence, c'est ce que le gouvernement de Poincaré avait fait en 1914, au mois d'août, lorsqu'il se retire jusqu'à Bordeaux, et ça ne paraît pas du tout une fuite. Hein. Mais dans ce gouvernement, Caballero veut se retirer à Valence, ce sont des anarchistes, commandés par un certain type dont on m'échappe, avec sa légion de fer, qui va couper la route au ministre. Et sous la menace de revolver, nous allons les retourner à Madrid parce que vous êtes des déserteurs. Il faudra longuement discuter, il faudra que les ministres anarchistes eux-mêmes interviennent pour qu'on laisse passer. Je veux dire à quel point ce gouvernement n'est pas respecté. En plus, n'oublions pas qu'à l'intérieur de cette gauche, on a beau essayer de s'entendre, on ne s'entend pas. Les communistes étaient jusqu'alors très peu nombreux et ils vont commencer, d'ailleurs Staline leur avait demandé, ils vont commencer à devenir très efficaces à l'intérieur de l'espace. Déjà, les communistes n'aiment certainement pas les anarchistes, mais je crois qu'ils espèrent encore davantage des gens qui passent pour trotskistes. Or, nous sommes en 36. Et vous vous rappelez qu'en 36, c'est le premier des grands procès. Le premier procès, ça a été Kamenev et Zinoviev, et puis il va y avoir un deuxième procès 37, puis un troisième procès 38, et chaque fois, c'est l'ombre trotskiste qui apparaîtra comme le personnage le plus redoutable, derrière Kamenev, Zinoviev, qui attaquera ses Boukharines. Hein. Or, le POUM et OUM, Parti Ouvrier d'Unité Marxiste, et ils vont prononcer Poum, c'est ça, c'est dérisoire. Ce Poum passe pour Trotskiste, alors qu'il ne l'a pas été. Le chef du Poum, c'est André Asselin, qui avait été un instituteur, qui avait été lié avec Trotsky, et que Trotsky n'aimait plus, il était brouillé. Mais comme il y a une odeur de Trotsky autour du Poum, alors les communistes ont décidé à en finir avec lui. Je vous signale un nom propre, ça j'ai appris avec étonnement, un homme du Poum, un milicien même du Poum, c'est Willy Brandt. Alors, c'est pour vous indiquer qu'à l'intérieur de la gauche, il y avait des dissensions très violentes. Les communistes ont ordre de Staline d'intervenir. Et Staline va envoyer le 21 décembre 1936, une lettre à Caballero qu'on a publiée il y a peu de temps, ça fait quelques années, et qui est d'un extrême intérêt. Une lettre officielle signée de la main de Staline au chef du gouvernement espagnol, Largo Caballero. Et qu'est-ce qu'il lui dit? C'est des conseils de modération. Il lui dit, écoutez, ne faites pas une révolution trop violente chez vous, ne prétendez pas faire une révolution structurelle, enfin une révolution qui touche aux structures, parce que vous allez effrayer les Anglais et les Français. Et nous avons besoin, nous les Russes, qui sommes également menacés par l'Allemagne, nous avons besoin d'avoir un appui militaire en face des Français et des Anglais, et cet appui peut nous être retiré si les Français et les Anglais considèrent qu'il y a un pays dangereusement communiste de l'autre côté des Pyrénées. C'est partiellement vrai ce qu'il disait là. Il ne voulait pas effrayer les Anglo-Français. Mais il y avait une arrière-pensée qui apparaît au premier point, à savoir ceci, je ne veux pas, moi, Staline, permettre qu'une révolution espagnole se développe sans que le Parti communiste ne la contrôle de très près. Là, il a envoyé des hommes. Des gens du Comintern, par exemple, qui s'était la Troisième Internationale, dont le comité en permanence était à Moscou. Qui? Togliatti, ça a été l'Italien, mais qui habitait Moscou. Marti! Le Français, Marti, mais qui habitait de Moscou dans les communautaires. Il va envoyer un nommé Koltsov. Koltsov, c'était le correspondant de la Pravda. Pravda, c'est vrai, la vérité, le journal officiel. Correspondant alors de l'Izvestia, qui veut dire les nouvelles, c'est Ilya Ehrenburg. Et un nommé Orlov, qui va très mal tourner. Orlov, c'est le chef du GPU, ou du LAS, je ne sais pas comment dire, GPU en Espagne. Figurez-vous que cet Orlov, après la guerre de 40, passera dans les services secrets américains. Et à ce moment-là, Orlov est le chef du GPU. D'autre part, on va servir des gens qui sont sur place, des Espagnols déjà communistes, pas très nombreux, Dolores y a Barouy, qu'on appelait la Passionaria, comme vous savez, et puis Lister, qui va prendre un commandement, El Campesino, dont je vais parler, Contreras, et puis Santiago Carillo, aujourd'hui encore vivant, qui n'est pas vieux, qui était un jeune homme qui venait des jeunes socialistes et qui avait quitté le Parti Socialiste pour passer au Parti Communiste, et qui était tellement dévoué aux idées de Staline qu'il avait fait la déclaration suivante, notre but est d'établir un régime démocratique et parlementaire. Vous savez, en Russie, ce n'est pas exactement un régime démocratique et parlementaire. Ce n'est donc pas du marxisme qu'il s'agissait de faire là, mais il fallait obéir à cette indication de Staline. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les communistes? Ils ont quelque chose de très raisonnable. C'est Contreras qui va commencer. Contreras est un abrilène. Et il leur dit, voyons, le premier problème, c'est la résistance militaire. Nous avons affaire à une insurrection militaire. Et vous voyez bien ce que c'est que nos troupes n'avons pas servi. Alors il s'agit de constituer une armée qui soit une armée. Et il va faire le 5e régiment. Attention, ce n'est pas la 5e colonne dont je parlais tout à l'heure. Il y avait 4 régiments à Madrid, à peu près 10 sous. Et lui, Contreras, dit, je vais faire un régiment qui sera un régiment. On l'appellera le 5e. Un régiment qui sera un régiment, ça veut dire quoi? Un régiment d'ancien régime, quoi. On va rétablir une discipline de fer, où il y aura le salut militaire dans les rues, où on ne blaguera pas, quoi. Ben, ils ne sont pas tellement contents, et les miliciens qu'on va faire entrer de force dans cette armée, qui est l'ancienne armée, vont rouspéter. Et les communistes ont le bon sens pour eux, en disant si on veut que cette république réussisse, il faut absolument que nous ayons de quoi nous défendre. Parfait. Ce n'est pas simplement ça, à ce quoi ils vont se borner. Ils vont rétablir une puissance de l'État. Alors là, si je m'explique bien. Tout à l'heure, je faisais allusion au livre de Félix Moreau, M-O-2-R-O-W, qui s'appelle Révolution et contre-révolution en Espagne, Stanislav Trotsky, qui est apparu aux éditions de La Brèche, vous m'avez dit, édition Trotsky, en 1978, donc l'année dernière. Voilà ce qu'il dit, ce Félix Moreau. Américain, Trotsky, qui vit en Espagne. Il dit, si les communistes, les bolcheviques, ont réussi en 1917, c'est parce qu'ils avaient des hommes à eux déjà dans tout ce qu'on appelait les soviets. Vous savez, les soviets, c'était l'organisation spontanée de paysans et d'ouvriers qui s'était créée spontanément à travers la Russie. Mais nous, parti bolchevique, nous avions des hommes partout. Si bien que cette réunion de soviets pouvait être le début d'une organisation, centrale, hein, et d'un État ouvrier, et un État. Ben, rien de semblable chez les Espagnols, parce que justement, ce sont les anarchistes. Qui ne veulent absolument pas le représentant de pouvoir central et qui veulent se débrouiller tout seul. Si bien qu'on avait un pullulement, de petites cellules communistes indépendantes, ils appelaient ça eux-mêmes les communistes libertaires, hein, les communistes libertaires, sans jonction les unes avec les autres, je rappelle une pulle virulente, une poussière, avec quelquefois des idioties, des stupidités, Moreau le raconte, tel village avait arraché des voies ferrées, parce que ça les gêne, hein, que le train passe par là, à cause de la fumée, à cause du bruit. Comment voulez-vous qu'on organise quoi que ce soit de sérieux si les gens se débrouillent chacun individuellement au point de rompre les communications ferroviaires? D'autre part, Barnett Bolotin, un autre Américain, qui a publié en 1970, en fait, traduction française, 1977, la Révolution espagnole, écoutez cette citation, « Chaque branche des syndicats ou des partis d'extrême-gauche, chaque village et presque chaque quartier des grandes villes avait sa propre police. » Des organisations, quoi. Alors il faut essayer de rétablir une organisation. Mais comme il n'y a pas de parti communiste suffisant, comme les communistes, les bolcheviques, comme on disait en Espagne, n'ont pas de représentants dans toutes les villes, alors il faudra rétablir le pouvoir tel qu'il était précédemment. Un pouvoir d'État bourgeois. Avec un homme comme Largo Calvillo qui ne demande pas autre chose que de reconstituer un État bourgeois. Si bien que les anarchistes vont être foudrages, vous savez, vont dire, mais ils nous trahissent. Et que je voudrais vous signer deux livres déchirants, en fait, que je vous signale parce que le ton est très, très cruel, de Gaston Leval. C'est un tout vieux anarchiste français qui est quand même mort il y a l'année dernière à 84 ans. Il s'appelle Espagne libertaire, Paris 1971, et Abel Paz, de l'outil ou le peuple en armes, 1872, qui disent notre espérance révolutionnaire, qui semble se concrétiser puisqu'on n'avait plus de paysans, avait pu saisir les terres, hein, ils avaient été jetés sur l'état de grands propriétaires et qui les étaient partagés. Cette espérance de transformation structurelle a été abolie par le Parti communiste qui, sous couleur, c'est vrai aussi, de rétablir une puissance d'État, nous avait ramené à la situation précédente. Les caciques vont revenir. Vous savez ce que c'est que les caciques? Ces grands ouvriers dont j'ai parlé, le duc de Médilacide et les autres, ils étaient pas souvent à chaque côte d'Azur, ils n'étaient pas là. Alors ils avaient des représentants, c'est les caciques. Dans chaque village, il y avait un délégué du patron. Et bien, les cafous qui avaient disparu à partir de juillet-septembre 36, et voilà, peu à peu, qui reprennent sous le contrôle du nouveau gouvernement. Un certain nombre d'ouvriers étaient arrivés, vous savez, ça réussit d'ailleurs guère, à faire une autogestion, qui ne marchait guère, à Barcelone. Alors, on va supprimer cette autogestion, et les comités d'entreprise, on peut dire, ne serviront qu'à surveiller le nombre des heures de travail, ou les rythmes de travail, ou les constellations sanitaires. Mais la révolte paysanne, et la révolte ouvrière, la révolte prolétarienne, tout ça va être anéanti, par la volonté des communistes. Dans ce très beau livre de Malraux, vous savez l'espoir, mais je parlais de Malraux tout à l'heure, il y a une phrase qui doit être authentique, que Malraux a dû entendre de ses oreilles. Il dit, il y a un communiste qui parle, et ce communiste dit, penser à ce qu'il devrait être, au lieu de penser à ce que l'on peut faire, ça c'est un poison. Ben, c'était l'argument du communiste. Hein. On ne peut pas tout faire. Il faut d'abord essayer de gagner la guerre, il faut essayer d'empêcher le Franco de gagner, puis on verra après. Il y a la Pravda, qui va, en date du 17 décembre 36, publier un texte affreux, que vous connaissez peut-être pas, et qui est terriblement révélateur. Je répète, un Pravda, 17 décembre 36, en Catalogne, l'épuration des trotskistes et des anarcho-syndicalistes a commencé. Elle sera menée avec la même énergie qu'en URSS. Comme si c'était ça qui était important. Or, pour les communistes, c'était ça qui était important. Et on avait envoyé ici Antonov Ovseenko comme consul général à Barcelone. Rosenberg était ambassadeur, lui, à Valence, mais le plus important, Valence n'est pas un endroit très révolutionnaire, mais Barcelone, au contraire, et Staline avait choisi ici Antonov Ovseenko. Ça vous dit rien. Antonov Ovseenko, c'est quelqu'un très connu dans le Parti communiste. C'est un ancien officier de l'armée tsariste qui était passé au service de la Révolution, et qui, le 8 novembre, le dernier jour de la révolution, c'est-à-dire que les Russes parlent de la révolution d'octobre, parce qu'à ce moment-là, ils avaient leur calendrier julien, et que c'est en février 1918 qu'ils ont pris notre calendrier occidental. Donc, cette révolution ne s'est pas faite en novembre, hein, 7 et 8 novembre, ils appellent ça octobre. Et bien, le 8 novembre, le dernier acte de la révolution communiste, ça a été la prise du palais d'hiver. Et bien, c'est ce lieutenant Antonov Ovseenko qui avait conduit l'assaut au palais d'hiver. Il est donc considéré comme un héros national. Mais en 1926 et 27, et nous sommes maintenant en 36, Antonov Ovseenko avait signé les deux pétitions trotskistes contre la CIA. La première des 46, la seconde des 84. Donc ils étaient compromis du côté des trotskistes. Et quand Lénine avait accepté de l'envoyer là-bas, c'était dans l'intention de le faire se racheter. Alors pour se racheter, il faut qu'il persécuta les trotskistes. Et il l'a fait d'une manière affreuse à l'égard du Poum, et en particulier de ce malheureux André Fini. Savez-vous que dans la première semaine de mai 37, dans Barcelone, le sang a coulé avec environ 1200 à 1500 morts. Et entre communistes et anarchistes, quelque chose désespérante, déchirante de voir ces extrêmes gauches qui se tiraient les uns sur les autres. Parce que depuis le jour de la révolution, c'était les anarchistes qui tenaient la Telefonica. Telefonica, ça veut dire la centrale téléphonique. Les communistes ne voulaient pas. Alors ils se sont emparés militairement à la Telefonica, on a commencé à tirer, et ça a été pendant 48 heures, des coups de feu, à l'intérieur de Barcelone, enfin, entre républicains. Et puis le malheureux Moon a été capturé par ordre d'Orloff. Orloff, c'est le chef du GPU. Et on sait ce qui lui est arrivé. Orloff, qui commençait déjà à appliquer des choses que la Russie a développées beaucoup depuis, l'a enfermé dans ce qu'on appelait un sanatorium à Alcalá de Henares. Alcalá de Henares. Et Moon a été torturé jusqu'à la mort. Là, ça s'est passé. Je vais citer une phrase d'un vieux italien qui travaillait avec les... C'est un anarchiste italien qui travaillait avec les Espagnols. Il s'appelait Berneri. Pour que vous compreniez bien cette phrase, il faut que je vous rappelle notre commune, 1671. Quand la commune s'est établie le 18 mars 1971 chez nous, il y avait d'un côté, c'est-à-dire à l'ouest, les gens de Versailles, MacMahon et Thiers, qui avaient lancé une armée pour écraser les communards. Puis vous alliez à l'ouest, l'occupation allemande, alors les communards étaient pris entre une pince. Hein. Alors Berneri écrivait, nous sommes pris entre les Versaillais de Franco, hein, les Versaillais de Franco, et les Prussiens de qui ? Du gouvernement stalino-bourgeois, du gouvernement stalino-bourgeois. Parce que Staline, selon lui, a farfouillé, et c'était vrai, et pour des raisons que c'est vrai, avec la loi. Alors allons vite maintenant, parce que je ne voudrais pas m'étendre trop, puis j'ai à la fin des choses auxquelles j'étais particulièrement. Regardons les mouvements militaires. On ne gagne pas une guerre, évidemment, en restant sur la défensive. Et savez-vous que les républicains ne seront en mesure de passer à l'offensive qu'en mai 37. Et jusqu'en mai 37, c'est les autres qui vont gagner tout le temps. La première chose sera été Badajoz. Vous vous rappelez, exprès, tout à l'heure, je vous montrais cette frontière verticale du Portugal et de l'Espagne, avec au centre ce Badajoz qui gênait Franco, parce qu'il disait, mais je voudrais des communications directes et permanentes entre Séville, par exemple, et la Cologne, je veux faire sauter le verrou, on fait sauter le verrou, et c'est là, c'est le 14 août. Et c'est là que le 15 août, il a fait quelque chose d'horrible. C'est quelque chose tellement horrible que Mauriac, dont je ne l'ai pas caché tout à l'heure qu'il avait pris parti pour Franco, va prendre parti contre à partir du 16 août. Car Franco n'a pas caché, au contraire, ce qu'il a fait. Le 3 décembre 1851, le lendemain du 2 décembre, Louis-Napoléon Bonaparte s'est aperçu qu'il ne soulevait pas beaucoup d'enthousiasme à Paris. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il a donné ordre à ses troupes de tirer d'une manière indiscriminée sur la foule. Il y avait un défilé militaire sur les grands boulevards et les soldats, parce que les soldats obéissent, tirent sur les gens des boulevards. Puisque l'enthousiasme n'est pas là, au moins que l'épouvante s'y plaît. Eh bien, Franco se rend compte aussi, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. On va pratiquer l'épouvante. Alors à Badajoz, le lendemain, il avait dû se battre contre les républicains, il va mettre environ 1500 personnes dans les arènes, pas seulement des hommes, mais il y aura quelques femmes et quelques enfants, et il va faire descendre tout ça à la mitrailleuse. Or il s'en vantera, parce qu'il a besoin de le faire pour l'épouvante. Alors quand on dira ça dans la presse française, Mauriac, que j'ai vu, on dira, ah là, ça c'est pas possible. Alors ça t'intéresse cette date, Mauriac va couper. Enfin, Mauriac, ça sûr. Alors bon, ben, il va avancer, il va délivrer Franco, il va délivrer l'Alcazar de Tolède, celui qui résistait, on parle de résistance héroïque, c'est 80, enfin, l'Alcazar de Tolède, c'est le commandant, le colonel Moscardo, si je me rappelle bien, qui résistait à tous les assauts, il va intervenir, le père Franco, le jeune Franco, il va le délivrer. On va voir qu'il va s'emparer aussi de Malaga, enfin, ça va pas mal, mais il y aura deux échecs, néanmoins, sur Madrid. Que je en parle un peu précisément, parce que c'est pas si beau. Première tentative, c'est octobre-novembre 36, la deuxième tentative, c'est mars-avril 37. Les républicains n'ont toujours pas le moyen d'attaquer. Ils vont attaquer en mer, en fait. Alors, ce mot-là, qui a dit, c'est moi qui vais délivrer Madrid. Ce qui ne plaisait pas beaucoup à Franco. Vous savez, il n'avait pas envie que Mola se couvrit de gloire. Alors, Mola va attaquer de trois côtés. Il va attaquer au nord, parce que le nord de Madrid est occupé par les nationalistes. Il va attaquer de l'est, puisque depuis Badajoz, on a les nationalistes. Sont là. Et il va attaquer du sud, c'est-à-dire à partir de la région de Séville, quoi. Vous vous rendez compte, vous voyez la carte, hein, Madrid fait une sorte de ventre à l'intérieur de l'Espagne nationaliste. Il y avait quatre armées, quatre colonnes qui allaient attaquer, et c'est là un journaliste qui va demander au général Mola, mon général, faisons à Paris, enfin, qui est-ce qui est la première colonne qui va entrer? Et c'est là que Mola avait répondu, eh bien ça sera la cinquième. Et il voulait dire quoi? J'ai quatre colonnes militaires, mais j'ai à l'intérieur de Madrid des amis cachés. Franco a des amis cachés. Pour les autres, ça ne bouge pas, ils sont même pas dans leur cave. Mais lorsque le moment sera venu, ils sortiront et ces gens vont trahir ma bouche de l'intérieur et vont nous livrer la ville. Cinquième colonne. Ben, je sais que nous avons vu ça, nous, en France, la cinquième colonne en 1939-40 et au-delà. Bon, ben, ça va louper. Et là, je ne veux pas faire de littérature, mais je ne peux pas ne pas saluer ce qui s'est passé en avril. En 1808, quoi, vraiment me tromper, hein, lorsque Napoléon a tenté de prendre Saragosse et a fini par le prendre, vous savez que les gens de Saragosse se sont défendus maison par maison. Je crois pouvoir vous dire qu'il s'est passé quelque chose d'aussi extraordinaire. C'est toujours extraordinaire des fugiles hein, qui acceptent de se faire tuer. Ben, ça a été inouï à Madrid. Ils ont été malheureux. Pour la première fois, il y avait des bombardements sur la ville. On n'avait encore pas... Les Allemands vont faire ça un peu plus tard sur Guernica. Non, je vais parler tout à l'heure. Mais pour la première fois qu'une ville était bombardée, c'était Madrid. Il y avait Dolores Ibarguri. C'était évident. Elle comptait beaucoup. Elle parlait deux fois par jour à la radio, matin et soir. Elle se terminait toujours par nous passer là, mais il ne pas compte pas. Vous avez certainement vu des photos de Madrid à l'époque avec ces grandes banderoles dans la rue. Nous passons là, nous ne passons pas. Les Madrilènes étaient décidés, quoi, à se battre. Et Dieu sait que c'était assez affreux puisque les nationalistes étaient déjà presque dans la ville, les sites universitaires. Vous avez franchi ces ruisseaux, Manzanares, je crois que ça s'appelle, c'est une rigole. Ils l'avaient franchi, et ils étaient dans la rue. Mais les gens décidaient, ils se faisaient pas. Ben, ils ont tellement résisté que Mola, il s'est cassé les dents. Et on a vu arriver à ce moment-là des miliciens qui ne voulaient pas accepter la discipline, mais à cause de Doruti, j'en parlais tout à l'heure, à cause de Doruti, des miliciens qui se battaient pas en Aragon, ils étaient 1600, ont accepté de venir se battre. Des brigades internationales qui étaient à peine formées, ben, une brigade, dans une situation extrêmement difficile, avec des gens qui parlaient des langues diverses, qui sont très très difficiles de les commander.
Ben, ils vont s'y jeter à corps perdu. Alors, il y aura les miliciens, il y aura les brigades, il y aura la population civile. Si Dieu ce mot-là rattrape son coup. Et il va recommencer, cette fois, en parlant, en se disant, je vais attaquer par le nord-est. Ils avaient avancé un peu au nord-est. Et vous voyez la carte, Madrid-Valence, la grande route qui va de Madrid à Valence, c'est à Valence et le gouvernement. Il se dit, Mola, j'ai coupé les communications routières et ferroviaires pour Madrid et Valence. Ça mettra les républicains en situation difficile. Et il croit pouvoir, le pauvre Mola, il croit pouvoir se servir des divisions italiennes que Musso leur avait prêtées. Et dont les titres étaient dans les. Oui, les titres, c'était pas du monde. Il y avait les lions, les aigles, tempêtes et ouragans. C'est prometteur. Hein. Malheureusement, ça n'a pas marché. Parce que la plupart de ces Italiens se sont rendus, si vous voulez, en masse. Pourquoi donc? Mais ils savaient, c'est pas qu'ils soient du tout des lâches, hein. Mais c'est que ces pauvres types, ils avaient été recrutés, si je puis dire, à la gamelle. Il y avait encore pas mal de chômeurs en Italie, on leur avait dit, si vous signez un engagement militaire, vous serez bien nourris, c'est content. Et ces types, vous pouvez tous imaginer qu'ils allaient aller ou bien en Tripolitaine, soit en Libye, garnison tranquille, ou bien en Éthiopie, puisqu'on avait gagné la guerre, on ne se battait plus. Alors quand ces braves types qui étaient là surtout pour se faire nourrir, s'aperçoivent qu'on les envoie au Caspique, hein, ça va plus du tout. Alors ils sont rendus en masse et Mola a été pour la seconde fois, Guadalajara, pour la seconde fois, il s'est cassé les dents sur Madrid. Vous savez peut-être que c'est Madrid qui viendra jusqu'au bout, puisque c'est en avril 1939 seulement que Madrid tombe. Mais il faut que je dise un mot, parce que c'est chiant à vous dire que vous ne savez pas. Ah, putain, j'ai oublié. Oui, ben je vais revenir en arrière parce que je m'aperçois d'un oubli que j'ai fait qui est très intéressant. Je vous avais dit que j'avais un détail à vous apporter, personnel, sur le comportement de Blum. Je sais que j'en suis, hein, j'en reviendrai tout à l'heure, mais je rouvre une parenthèse pour vous parler d'une des raisons pour lesquelles Blum n'avait pas marché. En 1947, on a publié des volumes presque, enfin, c'est pas un effort sportif, vous allez soulever, c'est des volumes qui s'appellent Enquête parlementaire sur les événements français de 1935 à 1940. Tous les personnages qui ont eu un rôle dans les événements français que je viens d'énumérer ont été interrogés. Blum, en particulier, a dit là quelque chose qu'on lui a reproché. Et même mon ami Lacouture dit, je me demande s'il a pas un peu exagéré. Après avoir rappelé que premièrement les radicaux l'interdisaient, et après avoir rappelé que les Anglais l'interdisaient, Blum va dire, en 47, je traînais aussi un mouvement dans l'armée. Et pas mal de commentateurs disent, non, vraiment, pas de problème. L'armée française n'avait aucune idée de ne pas suivre. Alors ça, c'est de mon petit souvenir personnel. Ça date de 1952. Et peut-être vous savez, j'ai été dans le 17 ans diplomate, j'étais à Berne, et j'étais attaché culturel. Nous avions le mercredi une réunion officielle, quoi. On recevait la valise, comme on dit, c'est-à-dire la valise extérieure de Paris, et l'ambassadeur, ouvrant la valise, proprement dit, répartissait les papiers. Hein. Il y avait c'était pour l'attaché militaire, pour l'attaché commercial, pour l'attaché financier, pour l'attaché information, puis le dernier, qui comptait pas l'attaché culturel. Alors une fois qu'on avait fait le travail officiel, on continuait une conversation inofficielle, parce qu'on serait initié une fois par semaine. Je tutoyais cet ambassadeur parce qu'on était de la même promotion à l'école normale en 23, c'était Bémery, et je ne sais vraiment plus pourquoi, mais en 52, on avait parlé de la guerre d'Espagne, qui était passée depuis 39, hein, et Bémery, tournant vers moi, me disait, je te connais, hein, toi, mais tu aurais certainement été du côté des rouges. Alors j'ai dit, bien sûr, quoi, tu sais bien. Alors quelqu'un que je ne vais pas nommer, mais c'était l'administrateur. C'était un aristocrate, c'est monsieur II. Se tourne vers moi avec un visage véritablement écarlate. Il me dit, répétez ! Alors je dis, mais mon colonel, j'aurais fait, oui, j'aurais souhaité l'intervention militaire française pour les. Eh bien, nous aurions beaucoup voulu voir ça, me dit cet officier. Nous aurions beaucoup voulu voir ça. D'un ton seulement menaçant, puis je lui dis, mais le père Boulogne n'a peut-être pas tellement ça. C'est-à-dire que si jamais en effet une intervention militaire en Espagne, une partie de l'armée n'aurait pas marché. Il dit, c'est bien, le parenthèse, il est terminé. On revient maintenant à quelque chose que vous avez dire du mois d'avril 1937. Et c'est Guernica. Bon, vous le savez tous, mais vous ne savez pas ce que je veux dire maintenant. À Guernica, il y avait un très grand nombre d'agents allemands qui, entre 16h et 19h30, toutes les 20 minutes, ils avaient refait des tonnes de bombes sur Guernica. Guernica est, m'a-t-on dit, une sorte de ville sainte, en Pays Basque, très catholique, et il n'y a aucun objectif. Ni militaire, ni industriel, rien. Si les Allemands avaient décidé de frapper Guernica, c'est pour l'épouvante, pour faire ce qu'ils vont refaire sur Covenant en Angleterre, mais quelque chose de particulier, d'atteindre le moral des gens bas, puisque c'est un sanctuaire qu'on allait détruire. Environ 1600 morts, paraît-il, avec joie et affreux. Figurez-vous que l'Action française, dans 5 articles, parus entre le 6 et le 16 mai 1937, va nier que l'ambassade, que le, l'aviation allemande soit pour quoi que ce soit dans cette affaire. Des calomnies, dit l'Action française, ont été répandues, prétendant que c'était une attaque de l'aviation allemande, alors que nous savons la vérité. Et je sais par qui que la vérité. Je le sais parce que je vis en Suisse, et que celui qui avait documenté l'Action française, qui a probablement non signé, mais envoyé cet article, c'était un professeur d'histoire militaire à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Il s'appelait Eddy Bauer, et il avait publié en 1938 un livre qui s'appelle Rouge et Or, c'est-à-dire les couleurs du franquisme, à la gloire de Franco. Dans ce livre invraisemblable, Eddy Bauer dit, je suis allé sur place, j'ai examiné, moi officier, j'étais colonel dans l'armée suisse, j'ai examiné les terrains à Guernica et je me suis aperçu qu'il était impossible que les cratères que je voyais là vinssent de bombes d'avion. C'était évidemment des explosions dans la terre. Je me suis renseigné, je sais ce qui s'est passé. Ce sont des anarchistes qui sont venus à Guernica ne pouvant pas tolérer d'être appuyés par des catholiques comme les gens de Bécubas, et ils ont tous fait sauter à Guernica en faisant croire qu'ils allaient d'Allemands alors que ce sont eux. La cause est entendue, c'est M. Eddy Bauer, la cause est entendue, Guernica, ce sont les anarchistes espagnols. Eh bien, en 5 articles, si je dis bien en 5 articles, du 6 au 16 mai 37, l'Action française a répondu cette prodigieuse calomnie, ce n'est pas Göring, oh, les Allemands n'ont jamais fait ça, c'est les anarchistes espagnols. Bon, je redeviens plus sérieux, et je vous passerai rapidement sur les tentatives, enfin, d'offensive républicaine. C'est en mai 37 sur Huesca, en juillet 37 sur Brunete, tout ça fait le sens, en août 37 sur Saragosse, chaque fois loupé. On avance de 2-3 km, puis la supériorité militaire des autres, et supériorité surtout matérielle avec les tanks et avec les avions, fait que les républicains sont obligés de reculer. La carte républicaine, c'est un plateau de chagrin. Au départ, vous savez, c'est les deux tiers qui étaient républicains en juillet 36, et à la fin de l'année 37, il n'y a plus qu'un tiers, du territoire espagnol qui est au pouvoir de la République. Il y a encore une dernière, enfin une avant-dernière bataille à Teruel, au Munster, c'est presque un peu au chiffre, lancée en décembre. Et à Teruel, c'est assez beau. Hein. Alors il va y avoir des combats dans la neige. Autour de décembre, il y avait, paraît-il, d'après ce que j'ai lu, presque 2 mètres de neige, où les gens s'entre-déchiraient dans cette neige, et ça va durer jusque fin mars. Tout le monde perd beaucoup de monde, j'avais beaucoup de soldats, aussi bien les franquistes que les républicains, et c'est un résultat nul, quoi, c'est une saignée. Alors, étant maintenant sûr que cette période militaire, Franco va lancer son opération contre la Catalogne, à partir de début d'avril. Il est à Lleida, je le sais, le 5 avril, et attention, le 15 avril, il arrive à Vinaros. Pourquoi attention? Parce que Vinaros, c'est sur la Méditerranée. Par conséquent, voilà la pauvre portion républicaine de l'Espagne, qui était l'est de l'Espagne, coupée en deux. Vous avez au nord la Catalogne, vous avez aussi ce qu'on appelle les pays du Levant, avec la Lance, et vous avez au milieu un couloir immédiatement élargi, les franquistes. Ils sont arrivés à la Méditerranée. Alors, désespérément, les républicains vont faire encore une tentative qu'on appellera la bataille des Lèbres pour tenter de réduire cette poche, de la couper. Et ça a été un échec pitoyable, avec même des désertions. Il y a deux ans, j'ai vu, j'étais vu comme moi, Federica Monsigny à Antenne 2. Elle devait être très jeune quand elle avait porté celle de la sanglée, parce que quand je l'ai vu, moi, et vous l'avez vu aussi, c'est pas lié du tout. La Federica Monsigny, interrogée ce jour-là sur les événements espagnols, a dit, c'est vrai, à la fin, nos soldats ne voulaient plus guère se battre. On lui disait, mais madame, pourquoi? Alors elle disait des choses pas terribles. Elle disait, mais on avait eu un espoir au début. L'espoir de profond changement social. Et on avait vu qu'il n'y avait pas de changement social. Alors nos gars, ils avaient peur de se battre parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait plus d'espérance. Que même si on gagnait la guerre, et ils avaient l'impression qu'on la gagnerait pas. Même si on gagnait la guerre, on allait revenir à l'état antérieur. Alors comment voulez-vous qu'on demande à les jeunes gens d'aller se faire tuer alors qu'il n'y avait plus d'espérance devant eux? Bon, je passe sur la conquête de Barcelone, ça a été le 26 janvier 39. Et autant tout à l'heure, j'étais obligé de vous dire, parce que c'était vrai, que l'attitude des gens de Madrid forçait l'admiration, tellement ils avaient été courageux, autant à Barcelone, ça a été triste. Ils mouraient de faim, ces gens. Hein. Et Franco avait envoyé des tracts par avion pour dire que nous apportons de la nourriture. Alors, quand ils sont entrés, les franquistes ont été affamés. Ils ont fait des distributions de pain. Ben avant de finir en quelques lignes, en quelques mots, en finir sur ce qui s'est passé militairement, je voudrais regarder avec vous un certain nombre de points. Première chose, c'est les brigades. Les brigades, c'est une idée de Staline. Staline ne voulait bien envoyer des matériels qu'on lui payait, mais ne voulait pas envoyer d'hommes. J'ajoute que l'armée russe avait été désorganisée, vous le savez bien, par l'affaire Tukhachevski, qui est de mai 37. Je crois que cette affaire Tukhachevski est plus sérieuse qu'on ne l'a dit. Je crois que Tukhachevski et quelques autres avaient tenté de se débarrasser de la personne de Staline, qui leur paraissait un fou dangereux, étant donné les grandes purges. Ça, toujours est-il, il y avait 30 000, c'est vrai, 30 000 officiers russes qui avaient été soit limogés, soit fusillés, soit envoyés en camp de concentration. Donc l'armée russe était prodigieusement affaiblie. Car Staline n'avait pas envie d'envoyer d'hommes. Vous savez parfaitement que les Italiens et les Allemands avaient des soldats, mais ils n'y pas. Et son idée avait été d'organiser à Paris, car ça va se passer à Paris. Par les choix du Parti communiste français, un recrutement de gens qu'on appellera les gens des brigades internationales. Il avait envoyé quelqu'un qui était à ce moment-là son ami, mais qui cessera bientôt de l'être, qui s'appelait Joseph Voss, plus connu sous le nom de Tito, et qui était chargé par les communistes de recruter des Yougoslaves qui voulaient s'engager dans ces brigades. C'était au siège du Parti communiste français, rue Lafayette, je crois, que s'organisaient ces engagements. Et bien des tas de gens vont s'engager. Le Parti communiste fera croire que ce sont tous des communistes, c'est pas vrai. J'ai été un moment apparenté à quelqu'un de brigade. Je vous assure que quelqu'un n'était nullement communiste. C'était des gens de gauche, d'extrême gauche, quoi qu'ils voulaient s'engager pour ce qu'ils croyaient la vérité. Mais on les faisait passer tous pour communistes, et je vous répète que ce n'est pas vrai. Alors là, se pose une question, la question Marty. C'est vrai qu'André Marty était chargé de l'organisation des brigades. C'est vrai que ça se passe à Albacete, vous savez, dans la province de Murcie. Donc c'est dans le sud-est de l'Espagne. Et vous savez bien qu'il a une réputation affreuse. Hier, j'ai fait cette conférence à Chalon-sur-Saône. Et après, j'ai eu un Espagnol qui parlait très très mal et qui m'a dit, je ne comprends pas, vous avez défendu le boucher d'Albacete. Je lui ai dit, mais monsieur, avez-vous des informations? Oui, je sais, c'était vraiment un boucher. La question est posée aujourd'hui. Je vais vous dire comment elle se pose. Il y a deux accusations très graves sur André Marty. Celle d'un Allemand, comment il s'appelle? Gustav. Gustav Riegler, R-E-G-L-R. Son livre en traduction française, c'est L'oreille de Malthus. Souvenir évangélique, vous savez, quand le Christ va être arrêté, on coupe l'oreille de Malthus. Bon, l'oreille de Malthus. Et puis, dans cet admirable, je dis bien admirable, le livre de Millet qui s'appelle, pour Guillaume Leblanc, André Massard, c'est André Marty, tout le monde le sait. Eh bien, Riegler, d'une part, et Millet, d'autre part, leur présente en effet comme un homme de sang. Un type qui avait la manie du soupçon, qui voulait arrêter l'état de brigadier international, comme j'en ai brigade, et qui aimerait faire passer pour le taux d'exécution un grand nom. Alors, le seul livre que je crois objectif, comment dire, ça il va être, est un livre évidemment tellement objectif que je n'ai pas pu savoir, je ne peux pas savoir encore l'option politique de celui qui l'a écrit. Jacques Delpéry, P.E.2.R.E. de Bayac, Les Brigades internationales 1968. Un énorme bouquin, c'est le livre fondamental sur les brigades, et il y a 10 pages sur la question Marty. Ce monsieur dit, j'ai fait l'enquête la plus minutieuse que j'ai pu faire. Et je suis arrivé à établir environ 50 brigadiers que Marty avait désignés pour un poste d'exécution. Quand on passe à ce qu'a fait l'ISPER, à côté de l'ISPER, c'est la commune espagnole qui commandait sur le front d'Aragon. Il y en a fait tuer environ 150. Hein, c'est vous vous rappelez que nous, les Français, après les mutineries de 1917, on a condamné une centaine à mort, mais qu'il y en a que 49 paraît-il d'exécuter. Mais je sais, j'ai lu dans les Izvestia, la tradition française, Izvestia, qu'au moment de la guerre de Pologne, lorsque Pilsudski allait attaquer les Russes, les Izvestia, par la volonté de Trotsky, publiaient le nombre des exécutés. 3700, vous suivez? En 4 mois, 3700 soldats russes de l'armée russe avaient été exécutés pour défaut de vaillance ou pour désertion. 3700. Alors si Marty en a tué 50 parce qu'il les trouvait suspects, c'est assez terrible, c'est lamentable, mais ça n'est pas exactement l'histoire du boucher. Je l'ai vu, je l'ai parlé deux fois à Marty. Il m'a pas donné l'impression d'un monstre. Évidemment, c'était quelqu'un qui, je crois, posait exprès au prolo, alors qu'il était officier mécanicien, vous savez, quand il était le mutant de la mer noire. Je l'ai vu, c'était en 46, il avait tellement les couloirs de la chambre. Il avait le ventre en avant, il avait une main dans ses poches, il avait une casquette, enfin, il avait enlevé sa casquette, mais se relevait tout le temps ses cheveux, des gros yeux globuleux, une moustache qui lui entrait dans la bouche, l'affectation d'un parler vulgaire, donnant le sentiment d'une limite d'intelligence à ses menus, Mais il faut savoir aussi qu'il a été très malheureux en Espagne. Il était parti avec une amie, une campagne qui s'appelait Pauline et qui l'a trahi pour un officier républicain. Alors il a changé Pauline en Raymond et elle est partie avec un officier républicain pour un par compassion. Et en 1952, ce parti communiste va le déclarer flic, vous savez, en même temps que Tillon. Et la fin de vie de cet homme, qui je crois était un homme sincère et généreux, a été une détresse sans nom. Le regardant devant moi, j'avais peine à l'imaginer les mains pleines de sang. Je veux dire d'autre part qu'un nommé Henri Dupré, va se féliciter, après la fin de la guerre d'Espagne, ça sera un collaborateur des Allemands, 42 Dupré. Il a félicité de s'il a pu faire mes brigades, je m'étais engagé dans les brigades pour saboter, il était une dizaine, et Dieu sait si j'ai saboté les mitrailleuses, si j'ai mis du sable dans les engrenages, et bien, il ne l'a pas vu. Si notre ami, si Marty était tellement soupçonneux, et malade du soupçon, comment se fait-il qu'Henri Dupré, qui était un traître, est échappé à ce surveillance? Alors je ne conclue pas, je dis simplement le problème est posé, la question du boucher d'Albacete, je n'en suis pas sûr. Un mot, en passant, sur la passion Maria, de la récit barbarie. C'est quelqu'un que j'admire certainement, mais je n'aime pas beaucoup savoir ce que je sais. Elle avait un mari qui s'appelait Blas, qui était un ouvrier, c'est du Parti communiste et qui était un combattant. Mais elle avait abandonné ce mari et pour un garçon qui s'appelait Francisco Anton, qui avait 20 ans de moins qu'elle, et qu'elle a tellement bien protégé que jamais il n'a couru aucun risque. Il était commissaire militaire, puis il allait un peu sur le front, mais revenait surtout à Madrid. El Campesino, dont je l'ai parlé, hein, qui a fait ses mémoires l'année dernière, vit assez bassement, il dit qu'elle naît la Belgique, Il semble que c'est un admirable orateur, mais que son comportement pouvait peut-être manquer de dignité. Après, il s'est sauvé, il est arrivé, il s'est habillé à Moscou. Comme vous savez, son malheureux mari travaillait dans une usine à Rostov. Le fils, qu'elle avait tué avec son mari, va se faire tuer en 1942 sur le front. Et elle est arrivée à faire passer à Moscou avec elle son petit amant, Francesco Anton. Vous me direz, c'est des affaires personnelles, ça regarde personne, c'est possible en effet. Je pense qu'il faut tout de même mettre dans le récit de la rue dans un éclairage exact. J'ai hâte d'en dire à Malraux. C'est un cas qui me gêne, Malraux. Personnage ambigu. Je vais le dire pourquoi. J'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est un très beau livre. Vous avez peut-être vu au mythe ce film qui est très intéressant. Mais quand je me suis informé, j'ai demandé quelle est la date de l'histoire. Et que j'ai vu, c'est un épisode de 1937. Je me suis dit, comme c'est curieux. La guerre est sur le moins d'être finie en 37, elle va se terminer qu'en avril 39. Qu'est-ce qui fait Malraux? Ben, une fois qu'il a fait son livre, il disparaît. Il va être en 37 où? Aux États-Unis. Il va plus s'occuper de cette guerre d'Espagne, une fois qu'il aura fait son bouquin. Or, c'était quelqu'un qui avait payé sa personne, c'est vrai, c'est un livre courageux, il le prouvera. Mais tout se passe comme s'il avait, au risque de sa vie, c'est vrai, comme s'il avait été en Espagne pour pouvoir faire un beau livre, et qu'une fois qu'il a fait un beau livre, c'est désintéressé de sortir de l'Espagne. Il y a quelque chose en lui qui me glace. D'autre part, c'est parfaitement vrai qu'il avait fait, avec l'argent du gouvernement espagnol, qu'il avait fait des acquisitions d'avions. C'est vrai que lui-même a piloté des avions et a pris des risques suprêmes. C'est vrai, il faut le savoir, que les gens qu'il avait engagés étaient surpayés. Ce n'étaient pas des gens des brigades internationales. C'était des mercenaires qui demandaient des sommes considérables. Des pilotes, quoi. Ben, il les payait tranquillement. Ce n'étaient pas des gens très admirables. C'était des gens qui gagnaient bien sur les arts, sur les routiers, tout. Voilà. Mais la chose cruelle, c'est de penser qu'il va quitter l'Espagne avant que l'affaire soit réglée, une fois qu'il a fait son bouquin. Durruti. Là, je suis coupable, parce que j'aime beaucoup Durruti et son criminel. Durruti, si vous regardez des photos de lui, c'est un grand garçon qui avait 1m85, qui avait le teint très bronzé, qui avait des yeux vaguement plissés, qui avait de fortes pommettes, et qui avait un sourire irrésistible. Je ne dis pas certainement pas que c'est un personnage crapuleux, mais je dis que c'est un aventurier total. C'est un type qui a essayé expropriation, traduction, hold-up. C'est lui qui s'est emparé du trésor de Frigon, Gigon, vous savez, la ville de Gigon, qui est une ville basse. Ben, il avait un jour, avec quelques copains, forcé le coffre-fort de la ville, et il avait fait, pas pour lui-même, c'est un homme positivement désintéressé, mais pour le parti, il avait fait ça. Je crois pouvoir vous dire qu'il avait tué de sa main l'archevêque de Saragosse. Le type qui était arrivé à se faire foutre, à se faire mettre à la porte. Il expliquait les huit pays, y compris l'URSS, parce que c'était un anarchiste. un homme qui payait tout le temps de sa personne. Il avait une maîtresse française, Émilienne Morin, dont il avait une petite fille qu'il adorait, qui s'appelait Clémence. Et lui, lorsque la guerre commence, la guerre civile commence, dit « Je sacrifie tout à la victoire. » Tout, ça veut dire familial, anarchie. Et il va dire « J'accepterai la discipline. » Et au moment où on sait que Madrid peut être pris, il demande à ses copains, à ses petits, à ses miliciens qui étaient le fond d'Aragon, « Qu'est-ce qu'il y a avec moi ?» 1600 vont partir avec lui, 1600. Et ces 1600, je vous assure, sont indispensables pour la défense de Madrid. Mais comment va-t-il mourir? D'abord, avant que je vous raconte sa mort, un détail qui m'a touché, mais c'est... on dit toujours qu'il met les petits faits, mais c'est vrai, vous allez voir les petits faits. Il était dans la cité universitaire, là où les Francis étaient à 50 mètres, hein. Il tirait lui aussi quand il devait par les fenêtres. Tout à coup, il lui dit, on t'appelle de Barcelone, au téléphone, Madrid, Barcelone. Je précise, il pense que c'est grave. C'était Émilienne, son amie, sa femme, quoi, tu veux dire. Et il dit quoi? Alors il lui dit, je peux savoir des nouvelles, est-ce que tu vas bien? Il est furieux, et il l'engueule. On ne le range pas comme ça, puis il est revenu en train de réparer en lui disant merde. Et son copain le voit tout gêné. Et lui, il aurait utilisé plus que ça. Il lui dit, tu vois, hein, à la guerre, on devient chacun. Et bien le surlendemain, c'est-à-dire le 19 novembre, il est tué dans des conditions que les anarchistes essayent de dissimuler. Et je crois qu'il n'y a plus moyen de dissimuler. On a parlé de balles perdues, on a parlé d'une balle Francis, certainement pas. Parce que la position qu'il avait, et l'attitude qu'avait son corps, prouve qu'il n'avait pas été tué par une balle qui arrivait des Francistes, une balle qui arrivait par derrière. Et bien, il semble que les camarades, les miliciens anarchistes qu'il avait suivis n'étaient pas tous d'accord. Il y en avait qui avaient suivi par Andrias, puis sur place, il y en avait qui n'avaient plus envie. Et la grande règle, c'est les anarchistes, c'est un pas de discipline. On n'accepte pas d'ordre. Et il semble que lui ait sorti son revolver devant un gars qui avait dit « Je fous le camp. » Je dis « Oui, j'ai le droit, hein, j'ai le droit, je repars en Aragon. » Alors il aurait sorti son pétard, il aurait volé à ce moment-là et le camarade l'aurait abattu. Donc il aurait été vraisemblablement tué par un milicien anarchiste, vraisemblablement. On va transporter son corps à Barcelone et il y aura 200 000 personnes, vous entendez, 200 000 personnes. Tellement il y avait de prestige, des sites, qui était en effet un personnage dangereux, mais qui en même temps était le symbole de quelque chose. J'ai presque suivi, et tel que vous me connaissez depuis tant d'années, vous vous doutez que le problème religieux m'intéresse beaucoup dans cette Espagne. Comment donc ça se fait? Il y a eu tellement d'églises brûlées, il y a eu tellement de couvents brûlés. Le Vatican dira 16 500, c'est l'Osservatore Romano qui dira 16 500 morts religieux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On connaît le chiffre. Il est pas mal, vous savez. 7 937. Comme on dit vulgairement, il faut le faire, hein. 7 937 curés religieuses tués par les républicains. Mais sur ce chiffre, il y en a 201 qui ont été tués par Franco. Ce sont les presque basques que Franco a fait tuer parce qu'il n'était pas discipliné. Bon, ben, enlever dans 200, il en reste 7 700. En 1909, lorsqu'il y a eu une première incident à cause de Francisco Ferrer, enfin, il y a eu beaucoup un commencement de révolution en Espagne, 40 églises avaient brûlé. En 1931, quand on est à la République, des églises brûlent. Et entre février et juillet 36, des quantités d'églises et de couvents vont brûler. Il y a Hérimbaud raconte, il raconte, que, dans ses souvenirs, il raconte que, quand il arrivait dans un village et qu'il demandait, je vais parler des gens, il avait appris l'espagnol, toujours, il dit toujours, on me désignait les trois objets de haine, numéro un, le curé. Numéro 2, l'officier, le gendarme. Et numéro 3, le propriétaire. Le curé. Comment ça se fait? Alors j'essaye de comprendre. Et je me dis après tout peut-être que des pauvres gens, qui s'étaient-ils dans leur naïveté que ces gens, ces curés, enfin, qui se donnent pour les représentants du Christ, les ont trahis. On a toujours vu, curé espagnol, les villages sont très pauvres. Mais automatiquement, ils allaient quand même manger chez le châtelain et ils votaient du côté du châtelain. Alors comment ça se fait? Un espoir trompé, un espoir déçu, impossible. Je ne sais pas si même, je vais citer une phrase de Bernanos qui est restée pour moi inoubliable. J'essaie de la lire lentement et sans émouvoir. Bernanos écrit avec une espèce d'humour noir et de sanglots retenus, être devenu la bête noire des hommes libres et des pauvres, avec un programme comme celui de l'Évangile, vous venez qu'il y a de quoi faire rigoler. Il faut que vous sachiez aussi que Hitler, bien entendu, a reconnu le premier, Franco. Que le second, c'est Mussolini, et le troisième, c'est le pape. Parce que le pape, malheureusement, c'est un chef d'État. Mais le troisième État qui a reconnu Franco, c'est le pape. Il faut que vous sachiez aussi qu'à l'unanimité moins deux, les évêques espagnols ont fait une déclaration en disant que ce que c'est Franco, c'est une vraie croisade. C'est la croisade de la religion. Et vous savez ce que Bernanos avait répondu à ce moment-là. Bernanos avait vu les choses sur place. Il était à Palma de Mallorca depuis 34. Et rien ne s'était passé à Majorque. Et Bernanos, quand il disait les choses, vous assure qu'il dit la vérité. Surtout quand il emploie les mots que je vais vous dire. J'affirme, j'affirme sur l'honneur. On pousse son talon, pose le pied. Une mâchoire de tête de mort se referme sur son talon et il est obligé de secouer sa botte pour la décrocher. Lorsque Franco va gagner, le pape va lui envoyer un télégramme que voici. Élevant notre âme vers Dieu, nous le remercions avec un L majuscule, bien sûr, avec votre excellence, pour la victoire de l'Espagne catholique. Alors, José Berganil, que j'ai connu, qui était assez marxiste, parce qu'il était un républicain espagnol très avancé et catholique pratiquant, va publier ceci après la déclaration du pape. L'Espagne catholique, je ne l'ai jamais vue. J'ai vu les rites et un désert. L'Église espagnole n'est pas hérétique, elle est seulement simoniaque. Elle a vendu son Dieu pour des avantages temporels. Et alors qu'en France, 95% des catholiques derrière Henri Bordeaux et Claudel étaient passionnés pour Franco, un tout petit groupe de gens, dont je dois vous dire que j'étais, étaient contre Franco. Il y avait qui ? Ben, il y avait Darmenos, bien sûr. Hein. Il y avait Mauriac, il y avait les gens d'esprit, il y avait les dominicains de la Tour Maubourg qui vont se faire suspendre par le pape dans leur bouquin, leur hebdomadaire sept est interdit par le pape sous la pression des évêques espagnols. Et il y avait Maritain qui, le 1er juillet 37, dans la NRF, carrément dans la NRF, Maritain va écrire ceci, ceux qui tuent les pauvres sont au moins aussi coupables que ceux qui tuent les prêtres. Ben voilà, j'ai à peu près fini. Il fallait que je vous dise que Jésus Hernandez, le communiste, va publier en 52 un document terrible qui s'appelle La Grande Trahison, pour dire que Staline a trahi les Espagnols, la République nationale. Enfin, il est arrivé, il dit qu'il les a abandonnés. C'est vrai. Il a retiré ses tankistes, il a retiré ses pilotes, il a retiré Rosenberg, son ambassadeur, il a retiré Antonov Obsenko qui l'a tombé dans une trappe. C'est pas du tout ce qu'il va devenir, ce qu'il sera devenu. Hein. Et il y a un texte affreux, il y a Ehrenbourg, il n'a pas publié lui-même, mais que j'ai trouvé, signé Ehrenbourg, dans la Pravda, suivez-moi bien, du 17 juin 38, du 17 juin 38. Où Ehrenbourg, qui est un stalinien, écrit « Il faut tendre la main aux patriotes espagnols, virgule, la main de la réconciliation. » Qu'est-ce que c'est les patriotes espagnols ? C'est les franquistes. Donc, par ordre de Staline, Ehrenbourg dit « Il nous faut, nous, communistes espagnols, tendre la main aux franquistes. » Pourquoi ? Parce que Staline s'aperçoit, et c'est vrai, il s'aperçoit, que les anglo-français lui ont menti. Les anglo-français lui avaient dit « On va s'arranger pour se défendre ensemble contre Hitler. » Alors, alliance militaire, il avait été très content, et s'aperçoit bien que les anglo-français, surtout les anglais, ne veulent pas d'alliance militaire avec lui, surtout pas, hein. Et il pense, il trouve, il sait, que les anglo-français seraient bien plus contents s'ils voyaient Hitler et lui s'entrebattre. Alors, à partir de 38, moi j'avais cru que c'était en 39, quand il a fait son calcaire de soviétique, je conçois, je m'aperçois maintenant que c'est dès 38, que pour se protéger, sa grande idée, hein, Staline, c'est de protéger la Russie tant qu'on pourrait de la guerre. Elle était fatale, cette guerre, mais au moins de la reculer le plus loin possible. Moi, de protéger la Russie de la guerre en 1839 et 38, c'était de se réconcilier avec s'entendre avec l'Allemagne. Alors, pour s'entendre avec l'Allemagne, il fallait cesser de soutenir le républicain espagnol. Et vous savez sans doute qu'il va faire retirer, Staline va faire retirer les brigades internationales, qui vont partir à la fin de l'année, en novembre 38, sous la pression de Staline. Et Staline va être gentil maintenant avec les Espagnols, avec les anti-républicains, parce qu'il prépare son coup de réconciliation avec l'Allemagne. Voilà ce que les communistes, certains communistes, et les anarchistes ne lui pardonneront pas, ce qu'ils appellent la grande trahison. Alors, en toute vitesse, la fin, ben ça va être affreux. Hein. Au début de l'année 39, vous savez bien, puisque Barthelme est écrit, c'est la débandade. La frontière française va être assaillie de pauvres gens qui s'enfuient, parce qu'ils ont peur de la République française. Il y a des femmes et des gosses qui s'enfuient à travers la neige. Vous savez que ce sont des Sénégalais. Ils vont les accueillir, on va les mettre dans deux camps, à Argelès et à Saint-Cyprien, derrière les barbelés. Il n'y aura aucune organisation sanitaire, il y a des tas de petits enfants espagnols qui vont mourir là. à Madrid, il va y avoir des combats de rue entre de gauche, entre, comment il s'appelle, le colonel Casado, qui voudrait essayer de négocier, pas un traître, mais négocier avec les franquistes pour dire on devrait accepter de donner le pardon, en fait, de ne pas faire de représailles sur tel et tel. Puis les communistes ne veulent pas, parce que les communistes espagnols n'ont pas obéi à Staline et sont restés les républicains espagnols décidés. Alors de nouveau, comme à Barcelone, au mois de mai 37, au mois d'avril 39, il y aura dans les rues de Madrid le sang répandu de républicains qui s'entretuent. Puis il y aura ce fait, je n'ose pas juger, tous ceux qui avaient un grand nom dans la révolution espagnole, ils vont tous s'en tirer. Le président de la République, Azaña, il est parti dès le début de février. Savez-vous où il est allé? À Annemasse. C'est-à-dire en France, mais sur le bord de la frontière suisse, parce qu'on ne sait pas trop, hein. Si jamais la France tournait mal, il pourrait se juger en Suisse. Marti, le 7 février, il est parti. Dès le 7 février 39, alors que Madrid ne tombera qu'en avril, ben le 7 février, il part. Au sud de la poche franquiste, là, autour de Valence, il y a encore des soldats, 15 000, à peu près, 15 000, 18 000 soldats républicains. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se précipitent sur Cartagène. Enfin, Cartagène, c'était là où il y avait quelques bateaux espagnols, qui ne marchaient plus parce que les officiers avaient tous été passés par les armes, comme ils disaient les franquistes. Alors ces types, ces 15, 16 000, attendent de passer, ils disent, on ne va pas nous laisser là. Ben, personne ne les prendra, personne. Mais ceux qui ont de l'argent, il y a Togliatti, là, il y a de la Récidavouri, ils vont payer pour avoir des petits bateaux de pétrole qui vont les conduire de Cartagène à la côte de l'Afrique du Nord. Ceux-là vont se tirer l'affaire. Sur les représailles, c'est tellement facile de faire de la littérature. Alors je ne veux pas en faire, je donne un chiffre. Hein. Quand j'étudiais la commune, il y a pas longtemps, en 1971, j'avais été indigné, je vois, par la longueur des représailles. Vous savez que la commune s'est terminée pratiquement le 26 mai. Hein. Durant tout le mois de juin, les occupants de Paris, c'est-à-dire l'armée de Versailles, continuaient à tuer. Et Mme Sams, celle des chers, disant, avec tranquille maintenant, les rouges sont exterminés. Charge Sams, hein. Bon, ben, je reste indigné. Mais vous savez, quand je vois ce qu'il a fait, dit Franco, mais c'est rien, hein, c'est rien. Ce qu'avait fait la pauvre, ce qu'on avait fait à l'heure de la commune. Alors voilà le chiffre. Et c'est vraiment indiscutable, hein, c'est à la mémoire de Ciano. Ciano, le gendre de Musso, est en visite à Madrid en juillet, au début de juillet 39. Début de juillet 39, vous entendez, la guerre est terminée depuis avril. Et Ciano dit, il y a environ 250 de 200 à 250 exécutions par jour, à Madrid et à Barcelone, environ 150 par jour. Alors nous sommes au mois de juillet. Alors nombre des gens, je ne dis pas innocents, mais enfin, incapables de se défendre, qui sont des prisonniers, que l'on continue à tuer, est énorme. Les atrocités, mais c'est pareil, vous savez, de tous côtés. Il ne faut pas faire d'illusion. C'est vrai que les requêtes, vous savez, les royalistes, ceux qui avaient le fameux sac à cœur. C'est vrai que vous avez l'habitude de couper à l'arrache les membres, les bras et les jambes de leurs prisonniers républicains, soit, hein. Mais lisez Hemingway, qui est du côté, pas seulement du côté des républicains. Après, vous rappelez ce qu'il raconte, il l'a vu, hein. Un petit village où les rouges avaient gagné, où la municipalité est enfermée, avec le curé bien sûr, dans la mairie, quoi. Et puis les paysans se mettent sur deux lignes avec leurs fléaux, c'est comme ça qu'ils battaient le blé, et qu'on fait sortir un par un des gens et qu'on les fracasse, on fracasse la tête avec les fléaux. Et puis ceux qui ne sont pas tout à fait morts, on les jette du haut d'un escarpement. Donc, du point de vue des horreurs, hein, ça se vaut. Mais avant de finir, deux choses. Primo, on oublie un peu trop ce qu'avait réalisé tout de même cette République espagnole. Savez-vous que 1100 écoles primaires, 1100 écoles primaires en 2 ans et demi, ont été créés par la République espagnole. On sait ça. Savez-vous que Frédéric Amonsignal avait très bien travaillé, qu'il a fait du côté des hôpitaux, qu'il a fait pour la santé publique des choses considérables avec très peu de moyens. Et savez-vous que l'anarchiste, ministre de la Justice, García Oliver, force aujourd'hui encore le respect de gens qui ne pensent pas comme lui. Il a eu cette formule très peu connue, qui moi me touche beaucoup, pour que la justice soit juste, susciter les cœurs. Oui. C'est García Oliver, hein. Je répète, pour que la justice soit juste, susciter les cœurs. J'ai fini et je voudrais vous dire un mot de quelque chose qui me touche particulièrement, c'est les gens des brigades. Il faut bien penser que les soldats se battent parce qu'ils sont obligés de se battre. Que personne ne forçait ces Français et ces gens de toutes les nations à faire ce qu'ils ont fait. Simone Veil, je parle de la première, celle qui est morte en 1947. Simone Veil disait, comme le gouvernement français ne donne pas de canon, il y a des types qui vont donner leur poitrine pour défendre les Italiens. Il y avait le Parti communiste, très gentil, qui organisait Place de la Nation, de grandes manifestations contre le fascisme et les Allemands. Ils ne passeront pas. Facile d'aller pour pousser les cris. Moins facile d'engager sa vie, sa personne, pour aller s'exposer à la mort au nom d'une certaine idée. Je trouve que c'est saisissant, et pas banal, hein. Des 30 000 dont 10 000 vont se faire tuer, qui sont partis, alors que rien ne les forçait, sinon leur option fondamentale. Vous allez me dire à quoi ça a servi. Rien. Franco a gagné. Ils s'en fait d'horreur, hein. On en a vu d'autres, on en voit encore aujourd'hui, bien supérieurs. Donc ils s'en fait tuer pour rien. Là, figurez-vous, je n'en suis pas sûr, parce que je voudrais terminer par une petite citation de Pascal, que vous ne connaissez pas, qui est une phrase assez paradoxale, qui a l'air fausse et qui est mathématiquement vraie. Toute la mer monte pour une pierre qu'on y jette.